9h, 11h, le club de l'été. Eva Rock.
Bonjour à toutes et à tous, saison 2, épisode 9 de votre club de l'été et le même plaisir à vous retrouver comme tous les matins pour une balade culturelle de 2 heures en direct avec une collection de coups de cœur, des découvertes patrimoniales et gastronomiques. 2 heures pour divaguer du Guatemala à la région de Lens ou encore aux États-Unis avec 2 guides de voyage que vous connaissez, Lise Pressac, notre expert tourisme et culture, et Olivier Pouls, notre expert gastronome. Et gourmet, bonjour les amis.
Bonjour à tous.
Bonjour Eva,
tout va bien.
Bonjour tout le monde.
Mais très bien.
Épisode 9 déjà.
Et oui, est-ce que vous avez des âmes d'aventurier?
Ah, complètement.
Ah, oh bah oui, moi je suis né
d'accord.
Pour ça.
Oui, c'est vrai?
Oui, absolument.
Ah bon, on va vérifier
le
ça.
Indiana Jones belge.
D'accord. Tout de suite, quand vous mettez le mot belge à côté, ça
fait moins sérieux, voilà, je sais pas
moins
pourquoi.
Sérieux, exactement. L'aventure avec vous, Lise, passe par où ce matin?
On va aller à Saint-Omer dans le Pas-de-Calais pour découvrir le marais à bord d'un bateau traditionnel.
Magnifique. Olivier, vous m'avez fait une surprise hier, celle de cuisiner dans ce studio une salade niçoise. On va reparler de salade avec vous en fin d'émission et avec un chef, Grégory Cohen, qui sera avec nous dans ce studio. Et puis surtout, Olivier, au cours de l'émission, vous allez évidemment évoquer votre vrai-faux, mais vous avez obtenu une exclusivité, visite
oui.
privée au 2e étage de la Tour Eiffel dans le nouveau restaurant du chef Anton.
Oui, le Jules Verne qui va rouvrir ses portes très prochainement et j'ai eu l'énorme privilège d'aller y manger avant tout le monde et je vais vous raconter l'aventure.
Voilà, avant tout le monde et sans Lise ni moi.
Oui, hein, on
voilà.
précise.
Vous avez, vous aussi, un rôle à jouer dans l'émission. Nous attendons vos remarques, vos questions sur Twitter avec le hashtag Europe 1 ou sur Instagram. Le club de l'été, c'est parti en direct jusqu'à 11h sur Europe 1.
9h, 11h, le club de l'été sur Europe 1, Eva Rock.
Lise Pressac et Olivier Pouls, notre invité, est déjà venu dans le club de l'été. Il n'a rien perdu de son goût pour l'aventure. Il a sa carte à vie, je pense. Et puis ce soir, il pourrait vous faire rire et peut-être même vous faire pleurer. Cher invité, pour votre deuxième venue, petit mix de génériques et des génériques d'émissions qui devraient vous rappeler quelques souvenirs.
Allô?
Allô?
Ouais, c'est moi.
Ah, ça va?
Ça va?
Ouais, cool.
Oh, t'as vu ce qui se passe là? Tout le monde en parle. Hein.
Dès ce soir, un jeune et charmant célibataire part à la recherche du grand amour pour peut-être rencontrer la femme de sa vie.
Bonjour Stéphane Rottenberg.
Bonjour, bonjour. Oui, alors c'est un peu confusant parce qu'il y a
et
des
oui.
émissions que j'ai animées, mais d'autres, effectivement,
mais oui,
où j'étais un peu caché.
On va revenir là-dessus ensemble. Merci infiniment d'être de retour dans ce
plaisir.
Club de l'été. Vous étiez avec nous l'an dernier pour la 11e saison de Pékin Express et vous revenez pour la
12e,
ça marche toujours.
Voilà. Bah, l'année prochaine pour la 13e.
Qui débute ce soir sur M6. Alors avant qu'on évoque cette 12e saison, est-ce que réserve cette saison en termes de surprise, quel générique vous avez reconnu?
Alors, j'ai reconnu Turbo où j'étais chef d'édition.
Ouais.
Voilà.
Ça a été un peu le début de votre carrière d'ailleurs, Turbo.
Oui, à la télé, oui. J'étais journaliste de presse écrite avant, effectivement, et j'étais reporter à Turbo en 96, 17. Voilà. Et puis après, j'étais petit chef à Turbo. Et alors, il y a eu Tout le monde en parle.
Oui.
Alors ça, c'est autre chose, parce
et
qu'effectivement,
oui.
je suis passé à France 2 en rédacteur en chef des magazines. Donc mon boulot, c'était d'embaucher les animateurs et d'acheter les émissions. Voilà. Et donc,
il y avait eu Union Libre, entre autres,
voilà,
mais
et donc,
aussi Tout le monde en parle.
L'équipe, dans laquelle je participais, voilà, on a décidé du retour de Thierry Ardisson à la télévision, sur France 2 à l'époque, il était sur Paris 1ère, et de Christine Bravo. On a embauché Frédéric Lopez, qui était joker sur LCI. Enfin voilà, donc ça c'était une époque où j'étais derrière la caméra, bien avant d'être devant finalement. Bachelor, ça c'est effectivement sur M6, mon émission de séduction, voilà,
mais
que
oui.
j'ai animé, voilà, mais qui a été un grand succès à l'époque, hein, sur M6. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre?
On a entendu aussi, c'est au programme,
oui,
parce
c'est
que
au
là
programme.
Aussi, vous étiez
oui,
à France
absolument.
2.
Absolument, alors à France 2, pareil, il y avait que la case de Télématin à l'époque, et on a ouvert la deuxième case juste après, produit par Yann L'Emergie avec Sophie Davant. Alors là, il arrête l'émission,
oui,
mais elle a duré,
oui.
ça ne nous rajeunit pas, mais elle a duré un paquet d'années. Et c'est vrai que ça a été alors, j'ai franchement, hein, participé, alors j'étais pas encore animateur, mais lancer les émissions comme Tout le monde en parle, alors aujourd'hui c'est Ruquier, mais c'est la même case finalement.
Oui.
Hein. Il n'y avait pas de talk show à France 2 en deuxième partie de soirée le samedi, et c'est la petite équipe avec laquelle je travaillais qui a décidé de mettre cette émission.
cette mission-là à l'antenne.
Alors, et quand vous voyez Thierry Ardisson qui quitte C8 et puis ce programme qui se termine aussi avec Sophie Davant, vous
je me dis que le temps passe.
Le temps passe, non mais c'est vrai.
Oui, mais ça a duré. Oui, alors ça a duré. Hein. Vous savez, les émissions qui durent donc 17 ans pour l'émission de Sophie Davant. Alors, Thierry, c'est autre chose parce que j'ai l'impression que s'il avait accepté la baisse de tarifs, il aurait pu continuer, je pense, parce que l'audience était très correcte. Mais que les programmes animés par Thierry ne soient pas donnés, ce n'est pas nouveau, hein, je m'en rappelle très très bien. Mais effectivement, comme il le dit, généralement, il y a un bon retour sur investissement. Après, bon, voilà, c'est une histoire de négo. Bon, voilà, en ce moment, il faut peut-être serrer un peu les vis à quelques endroits chez C8. Bon, très bien, mais ça marche. Enfin, il a un savoir-faire extraordinaire en talk show.
On a entendu deux autres génériques, celui de Saga, c'était sur TF1.
Oui, alors voilà, alors j'ai été, alors là, pour le coup, c'est vraiment, j'ai été producteur aussi de télévision, et c'est vrai que j'ai produit Saga, qui a été créé par Jean-Louis Remilleux et produit par Jean-Louis Remilleux, mais ensuite, il a vendu sa boîte de prod, et puis moi, j'ai été à la tête de la société. Je ne l'ai pas racheté, j'étais employé, hein, voilà, dirigeant-employé, voilà, et d'ailleurs, on peut le dire, hein, c'était Lagardère, hein, donc voilà, qui était qui avait racheté la société, et donc je me suis retrouvé avec Saga en catalogue, c'est extraordinaire à faire. Hein. Moi, j'ai produit donc Saga,
sur des célébrités.
C'est très, très dur à faire. Vous savez, c'est des longs sujets de 10-12 minutes en prime sur TF1. À l'époque, ça paraît fou. Si on avait des clauses d'audience, genre à 6 ou 7 millions de gens, enfin 35% de part de marché.
C'est-à-dire que si vous faisiez en dessous,
on a duré 9 ans. Et les clauses d'audience étaient énormes, mais ça marchait.
Quelle pression quand même.
Énorme, énorme. Mais on avait des choses incroyables. Et vous savez, en plus, il y avait un objectif, c'est très dur en France à avoir. C'était que l'objectif de Jean-Louis Remieux, c'était qu'il fallait qu'on aille chez les gens. Son modèle, c'était Paris Match et le magazine. Et donc, voilà, il faut qu'on fasse le Paris Match de la télé, les pages People. Hein, donc, qu'on aille vraiment chez les gens, qu'on fasse des longs portraits, qu'on ait au minimum 3 jours avec la personne. C'était très difficile. Et on a été chez Sean Connery, sa maison dans les Bahamas. Et c'est très dur de faire ça, même avec des stars internationales. C'est plus facile avec les stars internationales, très, très dur avec les stars françaises d'être chez eux.
Et, comme à chaque fois.
Ça peut paraître ridicule, oui. Mais le Graal, parce que Jean-Louis Remilleux était le créateur du programme, il disait, et en plus, je veux qu'on voit la chambre.
Ah, c'était la chambre. Parce que
vous aimeriez avoir une équipe de télé 3 jours chez vous qui rentre dans votre chambre.
Mais je comprends très bien, c'est très difficile. Les gens sont curieux de savoir, etc. Et en plus, alors si on peut voir la chambre, parce que tu vois, tous les rêves
sont
possibles.
Moi, je croyais que c'était la salle de bain.
Oui, non, mais voilà. Et alors, parfois,
je préfère la cave.
C'est un genre compliqué. Je sais bien qu'on le regarde toujours avec. Attention, c'était pas des paparazzades, hein, c'était des sujets, etc. Où on parlait de la carrière de la personne chez elle. Et on s'est vraiment bien marré. C'est très dur à faire, mais c'est super.
Et on a également entendu le générique de Top Chef.
Oui.
Parce qu'il y a deux grandes marques de M6 que vous portez, qui sont Pékin Express et Top Chef, on est d'accord.
Oui, bah oui, j'ai cette chance. Top Chef 10 saisons, Pékin 12. Et c'est vrai que là aussi, ça dure, et tant mieux. Hein.
Alors quand vous entendez justement tous ces génériques, pardon, vous vous dites quoi ? Tout ça est très cohérent par rapport à la carrière que j'ai eue. J'ai oublié, où le temps passe trop vite.
Non, alors quand j'étais jeune journaliste, alors pour le coup à Radio France, j'étais aux Infos Gênées. Lorsque j'étais à Libération, journaliste de presse écrite, j'étais au service société. Donc c'était des services très larges. On faisait des choses très différentes. Et c'était génial. Et puis après, par passion, j'ai fait de la presse auto, où là c'est ultra spécialisé. Et je me suis rendu compte que très vite, on ne me voyait plus qu'en journaliste hyper spécialisé. Et je me suis dit, oh là 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 là, quand la télévision est arrivée, je me suis dit, il ne faut vraiment pas que tu te mettes dans un coin. Alors, je trouve ça très bien de faire un genre, mais j'avais envie de faire plein de genres. Et je me rappelle, je discutais avec Jean-Luc Delarue qui me disait, mais t'as tort Stéphane, c'est une énorme erreur. Moi, je suis dans un genre et je ne bouge pas, et c'est ça qui marche.
Qu'il était dans un genre très éclectique déjà à l'intérieur.
Oui, mais j'interviewe des gens du quotidien dans des émissions de témoignages.
Ah oui, quand il était à l'antenne, pardon.
Oui, mais c'est plus large que l'automobile quand même. Oui.
Je suis d'accord, c'est ce que je disais. Par exemple, il a fait très peu de prime time, parce que bien évidemment, le genre testimonial n'est pas tellement adapté au prime time.
C'est l'après-midi.
Voilà, c'était l'après-midi, le matin, etc., que sais-je. Mais en tous les cas, c'est vrai que on m'a beaucoup dit, Stéphane, tu fais une erreur, on ne sait pas où t'es, tu fais plein de choses différentes, etc. J'ai pris le risque. Alors, j'ai pas la carte de la rue, mais j'ai pris le risque. C'est-à-dire que je me suis dit, ok, je vais vers ce que j'aime, c'est-à-dire tenter des choses différentes. C'est pas gagné, mais bon, en tous les cas, celle-là, elle marche. Voilà.
Elle marche très très bien. Ouais. On va évidemment revenir à la fois sur votre parcours, mais surtout sur cette 12e saison de Pékin Express. Vous n'êtes pas star, vous n'êtes pas paillette, mais on vous offre quand même avec Rose des paillettes, parce que son nouveau titre de cette chanteuse dont nous sommes fans, c'est Larmes à paillettes, et c'est sur Europe 1.
J'ai le cœur usé comme un disque rayé qu'on a trop écouté.
Le cœur up tempo, comme un tube de disco qu'on a dansé de trop. J'ai le cœur vinyle qui part au quart de tour. Et sur ma platine, faut que ça tourne là. Qui fout le camp, quand s'égare le diamant, quand ça change de chanson. J'ai le cœur qui prend froid, comme pour la première fois, sur un slow de Abba. J'ai le cœur vinyle qui part au quart de tour. Et sur ma platine, faut que ça tourne. J'ai le cœur éparade qui n'aime plus qu'on le balade, qui veut remplir des stades. J'ai le cœur vinyle qui part au quart de tour. Et sur ma platine, faut que ça tourne là.
Rose sur Europe 1, et je peux vous le dire, bientôt dans le club de l'été, et nous en réjouissons d'avance.
Eva Rock sur Europe 1.
Est-ce vraiment son visage ou la représentation élogieuse d'une nouvelle déesse que l'on adore?
Le club de l'été sur Europe 1.
L'Espressac, ne riez pas.
Oh, je l'adore ce générique.
Mais et ça vous concerne, je crois.
Ah bon, non, je crois qu'il disait Maroc.
Hein.
Oui, oui, il disait Maroc. J'ai entendu
c'est
ça.
Trop la classe.
Vous aurez votre version au mois d'août.
Oui. J'espère. Ouais, ouais. Il est 23h. Il est 23h. Voilà.
Ça y est.
Mais c'est pas moi.
Je l'ai redit.
Il est, oui, parce qu'il est
9h24. Oui, 24 même. Vous voyez, 9h24. Nous sommes en direct sur Europe 1 pour votre rendez-vous estival, le club de l'été. Nous sommes avec l'animateur Stéphane Rothenberg. Je sais, vous avez l'habitude. Vous savez que cette équipe est un peu faux-folle. Je vous apprends rien. Hein, voilà. N'hésitez pas à réagir sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Avec Lise, on va relayer vos messages, vos questions également. Alors, des questions sur la carrière de Stéphane Rothenberg ou sur Pékin Express. Je sais que vous adorez cette émission, donc allez-y, posez vos questions. Stéphane Rothenberg, vous animez des émissions depuis bientôt 20 ans. Ouais. Vous indiquez quoi sur vos papiers administratifs quand on vous demande le métier que vous faites?
Alors, plutôt, c'est vrai. Alors, vous avez raison, je mets plutôt producteur, alors que c'est pas, oui, si vrai. Je fais un petit peu, hein, mais c'est vrai, je mets plutôt producteur télé que animateur télé. Je l'ai mis de temps en temps. Alors c'est vrai que du coup, en fait, c'est juste parce que ça accélère la douane. Parce que, oui, si vous êtes animateur télé, on vous demande toujours, même dans n'importe quel pays, hein, qu'est-ce que vous animez, etc. Alors ça peut être plutôt sympa, oui, de discuter avec un douanier.
Mais ça peut coincer parfois.
Mais ça prend du temps. Ça va. Oui. Non, journaliste, ça coince.
Journaliste, ça coince.
Si vous mettez journaliste, c'est toujours un nid à problème. Alors quel journal, qu'est-ce que vous faites, pourquoi vous venez ici, etc. Donc ça, je ne mets plus. De toute façon, j'ai plus ma carte de presse depuis 2000. Je l'ai eu quand même de 90 à 2000, mais je l'ai plus.
C'était important pour vous d'avoir une carte de presse?
Non. Ah, symboliquement, quand là, c'est, oui, super. Puis en plus, à l'époque, elle était vraiment jolie, c'était vraiment une grande carte en carton, pareil, bleu, blanc, rouge, avec un numéro et un timbre. Bon, après, ça a été format carte de crédit, je trouvais ça moins rigolo. Mais
vous avez arrêté de l'avoir.
C'était une question esthétique. En fait.
Oui, voilà, c'est ça. Non, mais ça servait. Ah, c'était. Non, au début, oui, quand on est jeune, quand on a 20 ans, 21 ans, quand on a sa première carte de presse,
je pense que
c'est
ça
quelque
marche.
Chose. Après, je ne l'ai jamais montré, donc c'est vrai que voilà. Alors, si à l'époque, il y avait un truc, je ne sais pas si ça existe encore, c'était le coupe-fil préfecture. Ça fait partie des privilèges qui peut paraître scandaleux.
Non, ça n'existe plus.
Ça n'existe plus, voilà. Non. Alors donc, quand on était journaliste, on pouvait demander un coupe-fil préfecture. C'était un truc que la préfecture vous donnait et qui vous permettait, en cas d'urgence, de passer les barrages de police, de pompiers, quand il y avait des incendies de forêt, quand j'ai couvert à Radio France, etc. Ou tout bêtement, de prendre les couloirs de de bus ou des choses comme ça. Donc voilà, bon. Mais moi, j'étais terrorisé à l'idée de me faire choper, donc je faisais pas.
Vous
je suis
êtes
un peu
trouillard. C'est
ouais,
vrai,
ouais,
vous êtes
ouais.
trouillard.
Non, alors, ça dépend pourquoi. Mais voilà.
C'est bonne transition. Est-ce que, comme les candidats de Pékin Express, vous êtes d'abord compétiteur ?
Non, alors compétiteur, non. J'ai ouais. absolument aucun instinct. Je me fous. C'est pour ça, c'est un problème, par exemple, je jouais plutôt pas mal au tennis. Ouais,
oui.
Pas mal, hein, c'est fini. Mais dans les tournois, gagner tout ouais. à ou quoi. Ouais, non, ça c'est un problème. En revanche, je suis pas trouillard par exemple sur Pékin Express, j'ai pas peur des serpents, des araignées,
des... ni des accidents de voiture. Oh mon dieu.
Non, voilà, oui, ça non, j'ai pas ouais. quand j'étais genre dans les automobiles sur circuit, il m'est arrivé comme on disait prendre des boîtes, sortir de taper un peu les rails, les machins. Ça va, je prends le truc. Non, j'ai pas peur de ça. Ça va.
Et stratège comme les candidats de Pékin Express, c'est ce que vous l'êtes.
Wow, ça je peux. Oui. Non, c'est-à-dire que l'instinct de compétition, je ne l'ai pas. Mais oui, éventuellement, oui, ça oui. Réfléchir à la manière de bien négocier un truc ou obtenir un truc. Ou,
ça, c'est
ou
le côté
réussir.
Producteur qui ressort,
ouais,
vous avez vu. Sportif
pas vraiment.
Pas vraiment.
Non. Soucieux de ne pas me dégrader.
Oui.
Voilà. Et à peu près plus juste que sportif. Voilà.
Et aventurier ?
Je sais pas ce que c'est.
Ouais.
J'aime le voyage. Voilà. J'ai pas peur des animaux sauvages ou des bestioles ou des parasites ou des machins. Je suis relativement pas bien vacciné, d'ailleurs, c'est pas très bien. Mais je peux partir si jamais il me manque une armée pour le prochain Pékin Express. Je vois que j'ai une armée de vaccins à refaire, qui sont parfois des trucs de maladie. Vous savez, vous avez ouais. une chance sur 1,5 milliard de l'avoir. Est-ce que vraiment ça vaut le coup? Bon. Et oui, je suis pas trouillard à ce point-là. Ouais. Puis j'adore les chiens. Donc moi, dans n'importe quel bled, je me rapproche des chiens errants. Voilà, j'ai pas peur de me faire mordre. Voilà, je n'ai pas peur de ça.
Est-ce que vous pourriez nous définir cette saison de Pékin Express avec une odeur ?
Une odeur ? Ouais. Ah, ça, c'est pas facile. Je vais essayer.
Alors, pardon, on n'a pas précisé qu'on part en Amérique latine.
Oui, Guatemala, hein, Costa Rica, Colombie.
Colombie.
Formidable. Hein, ouais. Amérique centrale et puis le nord de l'Amérique du Sud. Formidable. Une odeur. Pas évident. Alors, c'est très compliqué. Elle est compliquée à décrire. Mais elle est très identifiée quand on la connaît. C'est l'odeur de la jungle amazonienne.
Ouais.
C'est et dont on a encore, par moment, là, on est vraiment sur le bout du bout, hein, mais on l'a. Hein. Et c'est pas exactement la même parce qu'on est moins dans les... C'est plus sec où on était. Mais il y a une odeur dans la jungle qui est très particulière.
Un mélange de terre, d'humidité.
Ouais,
de...
c'est difficile ouais. à dire. C'est difficile à dire parce que j'arrive pas à trouver. C'est compliqué quand on y a été dans la jungle. Alors c'est très différent dans l'Afrique, par exemple. Il y a pas la même odeur. Et je la repère. Et c'est marrant. Je me suis dit bon, ben là, on est quand même assez loin. On va pas la voir, etc. Et dès qu'on arrivait dans les endroits un peu de nature, il y a une nature extraordinaire au Costa Rica. Au
les décors sont absolument sublimes. Vous le verrez ce soir sur M6. Ouais.
Et en plus, c'est vrai que c'est un continent, c'est le continent le moins urbanisé du monde. Hein. Enfin, voilà, il y a relativement personne en Amérique du Sud. C'est vrai que c'est assez incroyable. Nous, on a l'habitude en Europe d'être un continent surpeuplé. Quand on va en Asie, c'est surpeuplé. Et on va en Amérique, il n'y a personne. Voilà, il n'y a pas de mégalopole énorme, il y a Mexico et tout ça, mais très peu. Et donc, la nature est encore très présente et c'est assez génial. Mais c'est difficile d'expliquer. Mais là, je dirais l'odeur de la jungle.
Eh bien, on va revenir sur les autres sens. On va utiliser vos autres sens pour comprendre cette saison de Pékin Express, sur laquelle on va évidemment revenir en détail. Lise, pour en témoigner, vous m'avez rendu dingue. Ce premier épisode est totalement fou. Et puis, avant d'en parler, je vous propose aussi de découvrir votre coup de cœur et celui d'un auditeur, Gecko, qui a eu la chance d'aller au Festival d'Avignon. À tout de suite pour la suite du Club de l'été sur Europe 1.
Le Club de l'été, 2 heures de détente ensoleillée sur Europe 1.
Nous sommes de retour en direct sur Europe 1 pour le Club de l'été. Notre invité est l'animateur Stéphane Rothenberg, directeur de course de Pékin Express, à découvrir ce soir sur M6 dès 21h. Vous entendez le générique.
Stéphane, il est bien ce générique.
Oui, il est très
c'est
bien.
Dune, ouais. C'est le film Dune.
Stéphane, chaque jour, notre invité nous fait partager un coup de cœur et vous avez choisi ça.
Il pleut. Le ciel est bleu, il y a du vent, mais rien n'y paraît, c'est un moment parfait. je l'oublierai jamais.
Extrait de Philippe Catherine, du dernier album de Philippe Catherine. C'était déjà votre coup de cœur l'an dernier.
Oui, alors pardon. Oui,
mais non, c'est pas pardon.
Non, mais
c'est une obsession. Non,
alors,
c'est,
alors,
je me suis dit que vous ne pouviez pas vous passer de sa voix, en fait.
Alors, en tous les cas, je suis ravi de voir, parce que lorsque j'en ai parlé l'année dernière, c'était encore un artiste, je veux dire confidentiel, parce qu'il a, il a deux, trois très grands tubes. Enfin, quand même, il fait des petites salles de concert. Je vais à tous ses concerts, c'est extraordinaire.
Et en un an, il s'est passé beaucoup de choses.
Et là, il s'est passé le Grand Bain.
Bien sûr. Et le Gilles Lelouch, hein, le film de Gilles Lelouch.
Le César, etc., etc. Je suis ravi. Alors, lui, je sais pas, parce que finalement, j'avais pas l'impression que le cinéma était forcément... alors, à chaque fois qu'il est dans un film, quel qu'il soit, c'est un moment.
Hein, voilà. Oui.
C'est un moment. C'est un acteur incroyable, c'est un artiste incroyable. Je vous assure, ses concerts, c'est dans les petites salles, mais il faut pas hésiter, c'est hilarant, mais c'est aussi musicalement très intéressant. C'est
cette chanson est particulièrement magnifique.
C'est un mélodiste, etc. Il chante beaucoup moins mal qu'on veut bien le croire, parce qu'en fait, il y a quelque chose. Et non, c'est un artiste extraordinaire, vraiment. Et non, je l'aime beaucoup.
Est-ce que vous partez avec des playlists sur Pékin Express ?
Alors, aujourd'hui, on a l'avantage d'avoir avec le streaming, même le plus besoin. Hein. Donc, c'est vrai que je peux accéder à tout ce que je veux sans problème. Donc, je n'ai même plus besoin.
Vous n'avez pas une musique en particulier en fonction du voyage, hein. Vous savez, certaines personnes...
Oui, c'est vrai.
Quand ils vont aux États-Unis, ont une musique.
Non, moi j'ai plus
de la country.
Moi je suis plus par phase. Non, alors c'est vrai qu'en revanche, on adore écouter des musiques locales et ensuite pour le montage d'ailleurs, on en ramène.
Ah oui.
Donc c'est vrai qu'en fait, ce qu'on fait pas mal, c'est vous savez, de toute façon, j'ai un chauffeur. Hein, on est 4-5 dans la petite camionnette, nous, mon équipe, et donc on a le chauffeur et plaf, ils mettent la musique locale. Hein, voilà. Donc en Amérique latine, c'est plutôt génial.
Oui.
C'est plus compliqué dans certains pays d'Asie où il y a un choc culturel qui fait que vraiment, on a du mal à accrocher. Bon, la musique indienne. Au bout de quelques deux jours, c'est fini.
Ah oui, deux jours.
Ouais. Enfin, j'ai 45 mesures, quand on est de Pékin. Hein, donc voilà.
Oui.
Et il y a une sorte, on a l'impression qu'on écoute la même toute la journée. Et donc, il y a un moment, on bug. Bon. Alors que l'Amérique latine, c'est presque ça aussi, mais il y a quand même des variables. Et donc voilà, j'adore ça.
Oui, parce que vous disiez hors micro à Olivier Pousse qui vous posait la question, c'est 45 jours de tournage, Pékin Express.
Oui, c'est long. Hein.
45 jours non-stop, en fait.
Non-stop,
hein.
On est tous ensemble, Barnum, on est 120 ensemble.
Donc on a le temps de s'imprégner de la culture locale. Hein.
Oui, déjà, parce qu'il y a au moins 40 ou 50 personnes du pays à chaque fois.
Donc
qui travaillent avec nous sur la production. Donc on discute avec eux, on apprend plein de choses, on mange local. On va dans des tout petits hôtels locaux parce qu'on est loin des grandes villes souvent. Non, on découvre un pays de manière... C'est très intéressant d'écrire le pays à la manière de Pékin Express.
Et c'est un magnifique voyage et je pense que tous les candidats s'en souviennent encore aujourd'hui. Et alors ceux de cette saison vont s'en souvenir particulièrement.
Oui, c'est le but.
Les auditeurs aussi ont envie de partager des coups de cœur avec nous, Stéphane Rothenberg. Aujourd'hui, c'est Gecko qui a souhaité évoquer avec nous deux pièces de théâtre. Bonjour Gecko.
Bonjour, bonjour Eva, bonjour Lise, bonjour tout le monde.
Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous.
Quel plaisir de vous écouter.
Eh bien, quel plaisir de vous retrouver parce que vous étiez déjà avec nous l'an dernier. Merci pour la fidélité, Gecko.
Absolument.
Vous avez eu la chance de partir à Avignon cette année pour voir deux pièces.
Absolument.
Dont vous aviez envie de parler. Alors, c'est quoi ces pièces?
Et merci de me laisser en parler. D'abord, je voudrais parler du Corbeau Blanc. Le Corbeau Blanc, une pièce de Donald Freed. Alors c'est un sujet un peu dur hein, quand même, mais c'est une superbe surprise du off, mise en scène par William Mesguich, qui est donc quand même le fils d'eux et qui fait des spectacles absolument extraordinaires. Il en fait 7 à Avignon en ce moment. Et c'est un face-à-face entre un bourreau nazi, Eichmann, hein, celui de sinistre réputation, qui est un rock, et face à une comédienne extraordinaire qui s'appelle Nadège Perrier, et qui en fait lutte par le dialogue contre lui pour le faire craquer. Et on en sort, mais vraiment sur les genoux. C'est très très fort. Et alors évidemment, le sujet est très lourd pour une belle après-midi d'été, mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut surtout pas manquer. Et tout le monde y va d'ailleurs. Tout le monde y va. Il faut absolument réserver. C'est jusqu'au 28 juillet.
D'accord. Et ça, c'est là, le festival off. Hein, on est bien d'accord. Hein.
Oui,
c'est dans le cadre du off. D'accord.
Les salles sont remplies à craquer tous les jours.
Et la deuxième
La deuxième pièce s'appelle What is Love. Là, c'est un one-woman show. C'est très, très drôle.
Anne Buffet, en revanche, si je ne me trompe pas.
C'est Anne Buffet, exactement, qui est une actrice, une comédienne et une réalisatrice qui a bien mangé quoi, dans la vie, point de vue sentimental. Elle nous raconte tout sur un ton cynique et extraordinaire. Et alors, juste une petite citation pour vous dire à quel point elle est dure, même avec ses propres parents. À un moment, elle dit, ça m'a retourné, « J'ai eu de la chance quand j'étais petite à la maison, j'ai su ce que c'était l'affection parce qu'on avait un chien et un chat. » Vous voyez, c'est ce ton-là, c'est super dur, et on meurt de rire, on pleure de rire, mais vraiment pleurer là pour le coup, parce que ça nous met vers face à plein de choses aussi, quoi. Et voilà. Et là, c'est par contre, c'est au Théâtre des Brunes, à Avignon.
D'accord.
Et c'est seulement ce soir. Il n'y a plus que ce soir et demain, donc faut se dépêcher d'aller voir parce que c'est vraiment un excellent moment aussi.
Et vous savez quoi, Gecko, vous êtes le meilleur attaché de presse de tous
c'est
les
vrai.
Spectacles et la que vous nous faites partager. Parce que l'an dernier, je me souviens, on s'était dit mais non, c'est pas possible. Il est attaché de presse du groupe de rock dont il veut nous parler. Là, c'est impossible. Ou le frère du chanteur.
Qui vient de finir un nouvel album d'ailleurs. En attendant, Anna vient de finir un nouvel album. Il sortira bientôt.
Merci infiniment pour ce double coup de cœur. Vous revenez quand vous voulez, bien
c'est
évidemment.
C'est moi qui vous remercie.
Vous avez votre carte.
Vraiment, vous êtes formidable. Passez un bel été.
Merci, Gecko. Vous aussi, on vous embrasse. Merci pour vous avez votre carte de fidélité de membre à vie. On est d'accord. Si vous aussi, vous voulez participer au club de l'été, c'est très facile. Vous nous écrivez sur Twitter avec le hashtag Europe 1 et avec Lise, on prend contact avec vous tout de suite. Stéphane Rothenberg, moi, j'ai eu un petit coup de cœur aussi que je voulais vous offrir. Ça s'appelle. Ça vient de sortir en folio. C'est À la table des diplomates. C'est l'histoire de France qui est racontée à travers les grands repas. Je trouvais que c'était assez logique, vous qui animez Top Chef notamment. En fait, ce sont tous les grands événements historiques qui sont vus sous l'angle des repas diplomatiques. Alors, c'est une sélection de menus et de documents inédits qui proviennent des fonds des archives du service de protocole du Quai d'Orsay, mais aussi de l'Élysée. Ça va de François Ier à la COP21, avec parfois des recettes de grands chefs qui ont participé à ces moments-là. Vous les connaissez en grande partie. Hein. Je citerai que Yves Candebord, Michel Guérard, Thierry Marx, ou encore Guylaine Arabian, Alain Passard, Pierre Troigot, qui témoignent.
C'est rigolo, parce que là, je tombe sur une page et je vois, alors, pardon de parler de moi, hein, mais je vois Thierry Charrier, parce que c'est le Quai d'Orsay. Alors, Thierry Charrier est un chef moins connu que ce que vous venez de citer, mais on était ensemble en CM1, CM2.
Mais non, c'est pas vrai.
Incroyable. Donc, vraiment, à 8 ans, 9 ans. Et il est chef du Quai d'Orsay depuis des années. Et c'est très rigolo.
C'est l'effet que Club de l'été vous souhaite. Oui, chaque fois, il y a des.
Je tombe sur la page.
C'est pas un truc bizarre. Truc bizarre. Stéphane Rothenberg, dans un instant, on va continuer de parcourir la liste de nos envies avec nos coups de cœur écran. Je crois que c'est pour une petite émission intitulée Pékin Express, mais je suis pas tout à fait sûre. À tout de suite sur Europe 1.
9h, 11h, le club de l'été sur Europe 1. Eva Rock.
2 heures de direct tous les matins de 9h à 11h avec mes acolytes Lise Pressac et Olivier Poul. C'est avec vous, évidemment, c'est ça le club de l'été d'Europe 1. Et comme tous les matins, nous avons un invité VIP et depuis 9h, c'est Stéphane Rothenberg qui est avec nous. Stéphane, cette 12e saison de Pékin Express, donc on pourra découvrir ce soir à partir de 21h sur M6. En quelques chiffres, c'est quoi? Donc 3 pays, on l'a dit, hein. Nicaragua, Costa Rica, Guatemala, Costa Rica.
On part de Guatemala City, on passe par et on fait tout le Guatemala, enfin une partie, ensuite le Costa Rica et la Colombie et on finit à Bogota.
Combien de kilomètres?
Donc ça fait pour les candidats, alors on va dire globalement presque, ça fait 7-8 000, 9 000, voilà.
Le nombre de personnes dans la caravane de Pékin Express?
À peu près 120.
Voilà, c'est
on
la
est
caravane
à peu près
du Tour
120,
de France.
Voilà. Donc, c'est vrai que c'est très compliqué parce que c'est vrai que normalement les émissions d'itinérance sont en équipe légère et normalement les prime time sont statiques.
Oui. Hein,
voilà. Même quand on est loin, Koh-Lanta, une fois qu'ils sont sur l'île, ils bougent.
Ils restent, oui.
Voilà.
Nous, vous bougez tous les jours.
Oui. La course, elle bouge tous les jours. Et l'équipe, on fonctionne. Ça, parfois, on prend la grosse logistique, on prend un peu d'avance, on prend 2 jours d'avance, on se fait rattraper, puis on redouble. Moi, je suis avec la course, mais le matériel, alors il y a des gens qui. Voilà, on n'a jamais le même rythme. On n'est quasiment jamais les 120 ensemble, sauf jour 1. Et puis à la fin, on n'est plus 120, puisqu'il y a plein de gens qui sont repartis. Mais oui, c'est une caravane, c'est très particulier. Alors, à produire, c'est assez étonnant.
Et pour. D'ailleurs, on salue Thierry Guillaume qui produit cette émission pour avoir eu la chance de venir avec vous sur deux de ces tournages. Il faut voir aussi le travail des cadreurs, c'est-à-dire les gens qui suivent les candidats avec les caméras au bras, qui font 13 kilos si je ne me trompe pas.
Oui. C'est pas la
et qui sont des athlètes de haut niveau quand même. Hein.
Oui, et puis alors, c'est vrai que c'est très particulier de suivre les candidats parce qu'ils sont dans leur course très vite. Avant, ils mettaient 2-3 jours. Maintenant, quand vous verrez le premier épisode ce soir, on s'arrange pour tout de suite que les candidats oublient la caméra, mais c'est vrai. Hein.
Oui.
Ils savent juste qu'il ne faut pas qu'ils oublient le caméraman, parce qu'ils savent qu'il ne faut pas monter en voiture sans le caméraman avec eux. Mais c'est vrai qu'ils sont, c'est tellement stressant qu'ils sont plus dans leur objectif d'avancer, etc., que de penser à la caméra. Mais
je ne peux pas tout dévoiler, mais vous êtes de plus en plus sadique. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que quand même, sur ce premier épisode, il y a certains candidats qui vont pagayer pendant plus de 6 heures sur un paddle, d'autres vont déguster des piments. Et autre épreuve, hein, je ne vous dis pas tout, ça a été explosif comme première étape. Est-ce que c'est l'âge qui vous rend méchant, Stéphane Rothenberg, ou il y a. Une nécessité en fait d'aller un peu plus loin pour surprendre
le candidat. Ce qui est vrai, ce qui se passe, c'est que les candidats connaissent tellement bien le programme qu'il faut les surprendre. Et ensuite, c'est vrai qu'on a rajouté des choses, notamment effectivement donc ce qu'on appelle la voiture interdite. Donc les candidats sont dans leur voiture et s'ils tombent sur un panneau sur le bord de la route, il faut qu'ils descendent de voiture et il y a un moyen de transport qui a été prévu par nous pour remettre du peps dans la course. Et c'est vrai que on fait un peu moins de kilomètres qu'avant. Mais en revanche, on a hystérisé la course, on a augmenté le nombre de petites choses. Et c'est vrai que ça nous a ajouté des choses. Alors, on croule sous la matière. Il faut savoir qu'avant, on montait 2,5-2% de ce qu'on tournait. Maintenant, on monte moins de 1% de ce qu'on tourne. Donc, on prévient les candidats.
Oui.
Attention, quand tu vas regarder le programme, tu vas être très déçu parce que tu vas avoir une fraction de ce que tu as
vécu.
Sûr. Et plein de choses extraordinaires qu'on n'a pas montrées. D'ailleurs, on pense même à changer un petit peu, c'est à alléger un petit peu. C'est-à-dire peut-être qu'il faut qu'on réduise la durée de la course parce qu'on a trop de matière. Là, ça devient, c'est de l'or en barre. Hein. On pourrait faire 10 prime time à chaque fois. Mais bon, voilà.
On est bien d'accord. Ouais. Vous avez eu à peu près 40 000 candidatures hein, pour cette nouvelle saison.
Ouais.
Vous allez voir alors, des duos père-fils, mère-fille, deux personnes qui ne se connaissent pas du tout, hein, qui vont devoir faire la course ensemble.
Et comment j'aurai une chance, par exemple, de participer à la
tout
prochaine
monde. Tout le monde.
C'est déjà trop tard, là, je pense.
Là, ouais.
Non.
En vrai, non.
Alors, non, mais c'est rigolo de savoir.
Avec l'église, alors.
Non, mais je vais vous expliquer pourquoi. Vous allez comprendre. Parce que ça peut paraître rigolo comme ça. Hein. Il y a, par exemple, deux sœurs ce soir qu'on va voir. Elles sont à peu près d'accord sur rien. Bon, sauf une fois, quand il faut faire le sac à dos.
Les lingettes démaquillantes, je les prends ou pas?
Je sais pas, comme tu veux, j'en sais rien.
Nous, les femmes, on a toujours des sacs remplis de au cas où. C'est au cas où il fait pas blesse. Au cas où il fait chaud,
au cas où il fait soleil, tes lunettes, au cas où tu fais une insolation.
Voilà, on a pris le minimum syndical là, moi je pouvais pas faire moins.
Ça va être compliqué l'aventure, avec un sac aussi lourd ça va être compliqué.
Alors là, elles ont l'air à peu près de s'entendre bien. Et puis, ça ne va pas être le cas dès le premier épisode. Et puis, vous avez aussi le couple de jeunes mariés, Mounir et Lindia. Et alors, eux, le début de l'aventure, franchement, ça ne va pas être triste.
Franchement, quand je vois Mounir qui trace, j'ai un démon qui monte dans ma tête, là. Ah, je vois noir. Je vois, il trace, mais en plus, tu cries sur moi.
Lui, il ne m'attend pas, il court et la rue, j'étais sportif comme lui.
Le ton vient faire PK Express. Elle croit que c'est les graines du shopping.
Ils sont extraordinaires.
Ils sont toujours
tous
mariés.
Les deux.
Non, mais c'est vrai que c'est toujours intéressant de savoir avec qui on part. Faut bien choisir. Hein.
Mais même si vous choisissez bien, on est d'accord. On s'engueule au bout du premier épisode. C'est pour ça que je ne veux pas partir avec vous, Olivier Pouls.
Ah, c'est gentil.
On est d'accord, Stéphane.
Non, mais alors il y en a qui ne s'engueulent pas. Hein, mais c'est vrai que ça crée des tensions. Ça, c'est sûr. Mais moi, c'est toujours intéressant de voir. On a tout type de liens. Et c'est toujours intéressant de voir pourquoi les gens ils le font. Moi, ce qui m'intéresse toujours, c'est de savoir. Lorsque les téléspectateurs regardent, quel binôme ils vont aimer. Parce que le binôme qu'ils aiment, ça dit beaucoup de choses sur soi-même.
Mais bien sûr. Oui.
Voilà. Et parce qu'on voit effectivement, il y a tous les types de liens. Vous savez, ce qui est étonnant en Pékin, c'est qu'on a des candidatures de 18 à 80, 85 ans. On a tous les milieux sociaux. C'est étonnant la variété. Il n'y a pas beaucoup d'émissions. Je pense que si Fort Boyard était avec des inconnus, ce serait pareil. Je pense que ce serait exactement le même genre.
Voilà. Dans une période.
Et je pense que c'est là. Parce que même Koh-Lanta, tout le monde ne se dit pas j'ai envie d'y aller. Pékin, alors je ne dis pas tout le monde, mais physiquement, tout le monde peut le faire. C'est plus mentalement hein, c'est compliqué, exigeant. Physiquement, c'est fatigant, mais l'année dernière, on avait quelqu'un qui avait 80 ans et qui a été en demi-finale.
Oui, on le voit d'ailleurs dans ce premier épisode, ce n'est pas les plus costauds qui résistent le mieux.
La
vous allez voir deux frères bûcherons. Alors, vraiment, bûcherons. Hein,
oui, oui.
Très costauds.
Des athlètes, 1m90, 100
voilà.
kilos.
Sur le paddle, ça a été compliqué.
Oui, absolument.
Ils ont un peu coulé. Voilà.
Deux bûcherons de 100 kilos sur un paddle.
Il y a des épreuves physiques où les athlètes vont faire la différence, mais la victoire ne se fait jamais là-dessus. Encore une fois, on avance en créant l'empathie chez les locaux pour qu'ils vous fassent manger, dormir et avancer. Et c'est très important pour nous que les gens un peu plus faibles physiquement, bon, effectivement, sur certaines épreuves, ils vont rater, mais ils ne sont jamais éliminés sur le physique. Et c'est très important, et ce qui fait que tout le monde peut s'engager.
Alors, on a des questions sur Twitter pour vous, Stéphane Rothenberg. C'est Marie qui nous dit, alors d'abord, merci en tout cas d'avoir relancé Pékin Express. Elle est sympa et bon esprit, cette émission. Mais juste comme ça, est-ce qu'il y a eu des histoires d'amour que vous avez dû taire? Oui, je suis une fille, j'aime bien savoir ça, nous dit-elle.
ouais. En fait, lorsque les candidats, une fois que les candidats se couchent, le caméraman, il s'en va, il rejoint, il nous rejoint. Voilà. Et il se passe vraisemblablement Alors déjà, dans l'équipe, c'est...
C'est n'importe
allez,
quoi.
Parce que vous mettez 120 personnes entre 25 et 40 ans.
C'est un club de rencontre, votre truc.
Mais non, mais c'est 45 jours loin de chez soi. Donc c'est vrai qu'il se passe forcément des choses rien que dans l'équipe. Ça commence déjà comme ça.
Bah alors, Eva.
Voilà.
Et je ne vous ai pas... Je suis allée deux fois sur le tournage de Pékin Express.
Et entre les candidats, c'est... Alors... Et les locaux, on va dire, c'est pas impossible. C'est pas impossible.
Ils vous le racontent ou pas ? Un peu.
Alors, non, mais souvent, il y a le caméraman qui revient, parce que ça cancane toujours un peu. Je me demande si c'est quand même pas passé un truc cette nuit. Avec parce que, effectivement, il revient, il voit que l'ambiance a un peu changé entre la veille au soir
il
où
le
il les a
pas
laissés
dans la même chambre.
Et le lendemain matin où il arrive. Voilà. Alors, dans l'ensemble, c'est quand même très sage. Mais enfin, c'est vrai que, encore une fois, on est loin. Voilà, c'est pas impossible. Mais
votre
vrai.
Femme vous laisse partir 30 ans, 45 jours.
Non, mais c'est vrai que c'est loin. Et c'est vrai que, du coup, en revanche, c'est vrai que, comme c'est pas le propos du programme, on n'y va pas.
Oui,
voilà,
oui.
On n'y va pas. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être un off, comme il y a un Avignon off. Ben, peut-être qu'on peut faire un Pékin.
Faire une autre version, mais oui. 99% de rush. En
mais
plus.
Oui. Est-ce que vous avez eu des galères pendant le tournage de celui-là de Pékin ?
Oui, tout le temps.
Oui.
Ouais, tout le temps, tout le temps. Alors après, c'est on a alors il y a la
des galères administratives.
Il y a les petites galères, alors, et les grosses galères.
Voilà.
Ouais.
Alors voilà, il y a la bobologie. Alors alors c'était pendant le repérage, mais Thomas Barnéou qui a écrit cette saison, c'est-à-dire qu'il a tout fait, les épreuves, les machins, etc. S'est fait attaquer par un essaim d'abeilles tueuses. Ouais, pendant le repérage. Donc ça a traumatisé tout le monde parce que alors c'est
plus ça, personne voulait partir.
Plus de 50 piqûres d'abeilles. Alors il va très bien, c'est quelqu'un qui est en pleine forme, etc. Donc tout va bien. Et, mais quand il nous raconte le truc, 50 piqûres, il nous explique que c'est juste il s'était garé sous une ruche. Et bon, c'est habitueux, donc elles sont un peu plus agressives que les normales. Puis voilà. Et il s'est fait attaquer. Bon. Donc nous, à chaque fois qu'on s'arrêtait quelque part, on regardait, c'était au Costa Rica, on regardait au-dessus de nous pour voir si on n'avait pas... Alors maintenant, j'ai la technique, je vous le dis. Si vous faites attaquer par un essaim d'abeilles, c'est comme dans les dessins animés, vous savez, c'est un nuage gris comme ça. Bon. Donc, faut pas aller dans l'eau, ça sert à rien, elles vous attendent au-dessus. Il faut repérer le vent, courir face au vent, parce qu'elles vont moins vite.
Ah oui.
Voilà, et vous éloignez de 600-700 mètres, parce qu'elle ne s'éloigne jamais tant que ça de la ruche.
D'accord.
Donc en fait, il faut piquer un sprint face au vent le plus loin possible, et là, vous limitez, parce qu'en quelques... Voilà. Donc c'est la solution.
Vous étiez tout le temps le doigt en l'air pour repérer
le vent.
Ça avait tellement, c'est impressionnant quand même, on avait vu les photos.
Vous appelez Sean Bolt et vous mettez sur son dos.
On avait les piqûres, les machins pour nous aider, nous. Hein. On avait même toutes les... Vous savez, on a notre petit kit avec les antipoisons, les machins pour les piqûres de serpents, tout ça, on a tout ça. Donc on sait, hein, c'est très spécial. Hein. Je vous prends une seconde. On a le kit, vous ouvrez, vous avez des petites... Vous avez des petites photos en noir et blanc avec les serpents. Alors vous dites, bon, ça c'est celui-là, ça c'est celui-là, ça c'est celui-là.
Oui.
Et donc, si vous faites mordre, le truc, c'est qu'il faut regarder le serpent qui vous a mordu pour l'identifier, pour trouver le bon antipoison.
Ça va trop vite. Hein.
Bah non, il faut regarder.
Ah, vous avez été piqué déjà ?
Alors non, alors moi j'ai pas peur des serpents, donc je m'en approche assez facilement, mais non, jamais. Si, moi j'ai été piqué par des fourmis fusils.
Des quoi ?
Des fourmis fusils. Alors, mais pas là, hein, dans une autre... en fait, c'est des petites fourmis qui vous donnent...
Qui ont le fusil.
Vous mordent, c'est l'équivalent de la douleur d'une balle.
Ah, c'est pas vrai.
Ouais. Et ça dure 24 heures. C'est extraordinairement douloureux. Et ouais. On m'a donné de la morphine hein, pour que je tienne. Non, c'est particulier.
Mais vous avez quand même vécu j'allais dire des chocs, mais des trucs un peu traumatisants quand même sur Pékin Express. On a tous vu votre accident de voiture.
J'ai eu un accident,
qui était assez grave.
Ça, hein.
Non, je dis voiture, c'était pas une voiture,
c'était un tuk-tuk. Voilà, hein. Enfin, c'était un sidecar, ouais.
Ouais, mais
non, mais ça... Finalement, je vais pas le faire. En fait,
voyez, Olivier Poulsen.
Plutôt aller à Top Chef. Goûter les plats.
Non, mais alors, pardon de témoigner de ça, mais c'est vrai qu'on a toujours peur des bestioles, des insectes, etc. Mais moi, je me souviens être allé avec vous sur la version du Cambodge et j'avais été impressionné par les voitures où ils roulaient quand même n'importe comment. Et on se dit,
oui,
l'accident
alors faut faire attention.
Est vite
arrivé. Alors, c'est très frustrant pour les candidats, c'est que, par exemple, on leur demande de demander à leur chauffeur de respecter les limitations de vitesse.
Et oui.
Dans certains pays où c'est pas du tout.
Ben non.
Donc, en fait, le chauffeur doit se dire, très surpris, mais ça, en revanche, c'est une règle qui crée parfois des tensions avec les candidats. Maintenant, on fait des choses, voilà, c'est quand c'est 80, il faut demander à votre chauffeur de respecter 80. Le caméraman, lui, il est prêt à couper la caméra si c'est un problème. Donc, on a quand même édicté des règles. La sécurité 100% n'existe jamais, mais voilà, on a essayé d'encadrer tout ça.
Merci beaucoup Stéphane Rothenberg. On va continuer à parler de tout ça. Dans un instant, c'est l'humoriste Ben H qui vient nous livrer sa carte postale mythomane. C'est à suivre, sur Europe 1.
Europe 1, le club de l'été, Eva Rock.
Il est 9h52 et vous êtes sur Europe 1 et jusqu'à
11h.
Merci beaucoup Olivier Pouls, vous saluez quoi ?
La ponctualité, l'exactitude ouais, sur l'heure. Ouais.
C'est votre club de l'été, notre invité Stéphane Rothenberg qui lui me défendra à tout jamais face à votre méchanceté. Vous allez rester avec nous jusqu'à 11h, oui. Stéphane Rothenberg. Mais avant, on va accueillir Ben H. Bonjour Ben H.
Bonjour Eva.
Je vous présente Stéphane Rothenberg.
Bonjour Ben H.
Il nous fait voyager tout l'été avec ses cartes postales mythomane. J'ai bien dit mythomane.
Eh bien.
Et vous revenez d'où ce matin ?
Eh bien, avec la présence de notre invité Stéphane Rothenberg, donc présentateur de Pékin Express. Pour ma carte postale du jour, j'ai donc voulu partir tout naturellement à...
Pékin.
Eh bien, ça, c'est ce que j'ai demandé à la direction d'Europe 1.
Ah.
Ce à quoi ils m'ont répondu, mais vous êtes qui ? Et que faites-vous à poil dans mon bureau ? Ok, on était en pleine canicule, je m'étais mis un peu à l'aise. Bref, je passe la conversation, puis les négociations.
Est-ce que vous avez négocié avec la direction votre voyage ?
Non, j'ai surtout négocié avec la sécurité pour que je puisse me rhabiller avant qu'ils me ramènent à la sortie.
Et donc, pas de voyage à Pékin, j'imagine.
Non, voilà. enfin, si, mais ils me l'ont joué façon M6, avec 1 euro par jour.
Ah ben voilà, oui, on a l'habitude, nous.
C'est chaud, hein, j'ai compté en prenant Uber, le voyage aurait duré 83 ans. Du coup, avec un tel budget, ce matin, pas de Pékin Express pour moi, mais je vous propose un magnifique Pantin Express, soit une épopée de Paris à Pantin dans le 93. C'est moins dingue à première vue, mais en y regardant de plus près, non, c'est toujours pas dingue. En fait. Non, pour être honnête, le voyage n'est pas bien spectaculaire et je suis pas sûr qu'une chaîne de télé, quand même, si achète le concept tout de suite.
Pourquoi, c'est-à-dire hein...
Grosso modo, l'aventure, j'ai économisé 3 jours et je me suis payé un ticket de RER.
Oui.
Voilà, je suis arrivé à Pantin, j'ai mangé un kebab et c'est tout.
Ça n'a pas dans les kebabs.
Non. Je pense que c'est un peu léger en prime time, ça. Là.
Ouais, c'est pas très foufou, on
non,
peut dire ça.
C'est vrai, qu'en guise de grand final de cette épopée, j'aurais pu choisir plus clinquant qu'un kebab, hein, mais je suis malheureusement intolérant aux fruits de mer et je déteste le homard, Eva. Et puis avec 1 euro à Pantin, on fait pas grand chose. Hein. À Pékin, à la limite, oui, avec 1 euro, tu peux faire travailler 25 personnes pour qu'ils te le pêchent, le homard. Avec 1 euro à Pantin, t'as juste un supplément fromage. À Pékin, là, t'es déjà niveau top chef.
Ouais, c'est ça. Top chef qui est aussi une autre émission que présente Stéphane Rothenberg.
Tout à fait, notre invité qui se met définitivement au top dans sa vie. Hein, avec Pékin Express, lui, il voyage vraiment. Avec Top Chef, il mange super bien. J'adorais savoir si à l'époque où il présentait le Bachelor, il profitait aussi des qualités de l'émission. ça m'a donné une idée. Ça veut dire que le club de l'été, c'est un peu un condensé de la carrière de Stéphane Rothenberg. Hein, Eva et Lise nous font voyager tout l'été façon Pékin Express et Olivier Pouls. C'est un peu notre caution Top Chef dans l'émission.
Et Bachelor alors ?
Puisqu'il faut se sacrifier, Eva. je m'y colle, ok. La prochaine fois, je viendrai donc avec une rose et que j'offrirai à une de vous deux. Alors, sans vouloir tuer le suspense, je compte l'offrir à Alice Pressac.
Ah, pourquoi ?
Eh bien, rien de personnel. Je suis même vraiment désolé, mais je sais que vous partez en vacances à la fin du mois. Donc, si je veux revenir au mois d'août, je préfère miser sur celle qui reste.
Bien vu.
D'accord. Et puis, de toute façon, tout ça, au final, c'était un grand n'importe quoi. Et de toute façon, si c'était vrai, c'est vrai, ça aurait pu être vachement sympa.
Je ne sais pas si je vous dis merci, Ben H, pour cette carte postale.
Je viendrai avec une rose pour vous aussi.
Je vais réfléchir à vous réinviter lundi. Hein. Adieu, cher ami, comme on dit. Merci beaucoup, Ben H. Est-ce que vous savez combien de kilomètres vous avez réalisé depuis que vous faites Pékin Express, Stéphane Rothenberg?
J'ai pas compté.
En cumulé.
Il faudrait qu'on calcule, c'est pas mal. Alors, au total, moi, j'ai fait 75 pays, mais quand on rajoute ma carrière de reporter en plus.
Vous avez visité 75 pays dans le monde.
Ouais. Il y a une application qui permet de voir ça.
On appuie
sur les pays, du coup, on regarde. Alors, attention, il y en a presque 200 dans le monde. Donc,
oui,
il en reste 130.
Non, mais il y a du boulot. C'est pour ça qu'on me dit, mais Pékin, vous avez presque tout fait. Non, je rends de la marge. Je serai à la retraite qu'on n'aura pas fait tout.
Là, ce soir, c'est la 12e saison qui débute. Vous pensez déjà à la 13e et vous savez où vous allez ?
Alors, avant même que la chaîne ne signe, on est obligé de préparer parce que c'est comme Top Chef, il faut 11 mois à peu près pour faire un Pékin Express.
De préparation,
Donc, en fait, on est obligé d'anticiper. Donc, on a déjà une route, on ne fait pas le casting parce que ça ne sert à rien, mais on a déjà une route, voire même deux d'avance, qui sont pré-préparées.
D'accord.
Une fois qu'ils signent, généralement en prime 3, on enclenche tout le reste.
Il y a un an, à nos confrères de Pure Média, vous déclariez, je suis toujours persuadée que tout s'arrête fin juin.
Ouais.
Là, on finalise le contrat jusqu'à fin 2020.
Oui,
et si
ça.
Je vais au bout, ça fera 20 ans. Mais ça fait 20 ans que je me dis que ça va se finir fin juin.
Oui, mais c'est vrai. Hein.
Et vous êtes toujours dans ce même état d'esprit.
Oui, alors, je reconnais que là, statistiquement, parce que si je veux être totalement honnête, vu la conjoncture, Top Chef, ça marche plutôt pas mal. Pékin, ça marche plutôt pas mal. On est plutôt pas mal, voilà. Mais... on ne sait jamais, je ne suis pas donné, ils peuvent peut-être quelqu'un de moins cher, j'en sais rien, je sais pas. Tout est possible, j'ai toujours l'impression que juin 2020, on me dira écoute, franchement, je sais pas. Ouais.
20 ans,
mais
c'est
là,
bien.
Mais... statistiquement, c'est moins. Et de toute façon, je vais me porter malheur, mais c'est moins. C'est vrai que voilà. Mais non, j'y crois vraiment. C'est pas de la blague, c'est pas un effet de manche. Je me dis toujours, c'est l'avantage ou l'inconvénient de la précarité de ce métier.
Mais méga fête pour les 20 ans l'année prochaine.
Oui, il faut que j'y pense, hein, à faire un truc avec mon
frère
de Top Chef.
On fera peut-être un club de l'été spécial si vous voulez.
Avec mes potes de Top Chef, peut-être que on va tenter un truc 20 ans. Parce que c'était quand même pas gagné d'avance. 20 ans de télé, c'est pas facile.
On est d'accord. Ouais. Et d'ailleurs, on va reparler de gastronomie avec vous et avec le chef Grégory Cohen qui va nous rejoindre dans la suite du club de l'été. Évidemment, je garde Ispressac et Olivier Pousse à côté de moi. Manache, vous êtes congédié jusqu'à lundi. Allez, on vous retrouve.
À
tout de suite sur Europe 1 pour la suite du club de l'été. Il est 10h, vous êtes sur Europe 1. On fait un point sur l'actualité avec vous, Marion Calais. Bonjour Marion.
Bonjour Eva, bonjour à tous. Un projet de loi présenté à l'automne prochain au Conseil des ministres. La réforme des retraites lancée officiellement aujourd'hui avec la présentation des préconisations du haut commissaire à la réforme, Jean-Paul Delevoye. Le texte va être présenté au gouvernement dans une demi-heure. Mais ce sont les partenaires sociaux qui en ont eu la primeur. Maud Descamps, vous êtes au ministère des Solidarités pour Europe 1. Syndicats et patronats déjà vent debout contre cette réforme.
Oui Marion, écoutez, c'est confirmé, on vient de l'apprendre, il y aura bien un malus pour ceux qui partiront à la retraite à 62 ans, c'est ce que craignaient les syndicats. En revanche, ceux qui travailleront jusqu'à 64 ans auront plus de points. C'est tout le principe de ce système à points. L'idée est de remplacer les 42 régimes existants par un système unique. Chaque euro cotisé donnera des points. Changement majeur aussi sur le mode de calcul, puisque ce ne seront plus les 25 meilleures années ou les 6 derniers mois pour les fonctionnaires qui seront pris en compte pour le calcul des pensions, mais l'ensemble de la carrière. Ces préconisations serviront de base pour le projet de loi qui sera ensuite présenté au Conseil des ministres à l'automne. Les partenaires sociaux s'exprimeront dans la matinée à l'issue de la réunion, mais FO et la CGT ont déjà fait savoir qu'ils s'opposaient à cette réforme et craignent un coup de rabot sur le montant des pensions. Pour eux, ce sont les plus précaires qui seront pénalisés. La rencontre a donc débuté à 8h30 ici au ministère des Solidarités. Elle devrait durer 2h. Jean-Paul Delevoye ira ensuite remettre ses recommandations au Premier ministre Édouard Philippe en fin de matinée.
Maud Descamps, direct du ministère des Solidarités pour Europe 1. La prime à la conversion automobile pour acheter un véhicule moins polluant, victime de son succès. Un décret paru hier durcit les conditions d'attribution. À partir du 1er août, les véhicules en vignette critère 2 ne seront plus du tout éligible. Le plafond des émissions de CO2 est également revu à la baisse. 122 grammes par kilomètre jusqu'à présent. Ce sera 117 à partir du mois prochain. Un durcissement dénoncé par le patron du Conseil national des professions de l'automobile, Xavier Auran.
Selon nous, le gouvernement a pris la responsabilité de mettre à la casse la prime à la conversion. Les classes modestes sont réellement très impactées. Je pense notamment à toutes celles et ceux qui envisageaient d'acquérir des modèles qui émettaient entre 117 et 122 grammes des CO2, et puis plus globalement, je pense aux véhicules d'occasion. Ça concerne un Français sur 4, alors que l'acquisition d'un véhicule neuf concerne un Français sur 28. D'abord sur la forme, se pose un problème de méthode, à la fois en termes de concertation qui a été absente, et d'agenda, dans la mesure où les acteurs de l'automobile et surtout leurs clients, les Français, n'ont plus que 12 jours pour s'y adapter. Sur le fond, la vraie question qu'on se pose est celle-ci. Pourquoi se priver dans l'urgence d'un dispositif qui était particulièrement populaire alors que les besoins d'accompagnement n'ont jamais été aussi forts qu'aujourd'hui pour réussir la transition écologique. Donc la nouvelle ministre a beaucoup de travail, mais c'est pas en donnant un coup de rabot aussi brutal et aussi important que nous y arriverons.
Le délégué général du Conseil national des professions de l'automobile, joint par Marion Jorth pour Europe 1, le gouvernement de son côté estime que le décret permettra de recentrer cette prime à la conversion vers des ménages modestes et les véhicules les plus propres. La présence de l'ours en Ariège et ses nouvelles tensions après la mort de 250 brebis tombées d'une falaise fin juin. Hier, un véhicule de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage a été incendié. Une plainte devrait être déposée et l'Office n'exclut pas de suspendre ses opérations dans le département. C'est la hantise de tout vacancier qui a fait une réservation sur Internet. Se retrouver le bec dans l'eau et découvrir que le logement loué n'existait pas sans pouvoir en plus récupérer le coût de la location. C'est ce qui est arrivé ces derniers mois à plusieurs personnes passées par la plateforme Abritel. Le récit pour Europe 1 d'Arnaud Rozac.
Il y a 6 mois, alors qu'ils préparent leurs vacances d'été, Alexandre et sa femme réservent une location sur Abritel. Le choix du couple se porte sur une maison près de Saint-Tropez qui appartient à un certain monsieur Henri Lavore. Mais il y a quelques jours, alors qu'Alexandre veut joindre ce monsieur Lavore, c'est une mauvaise surprise qui l'attend.
En tapant en fait le nom du propriétaire et le nom d'Abritel sur Google, je me suis aperçu qu'en fait il y avait une escroquerie. La maison n'existe pas, le propriétaire était fictif.
Cette fausse annonce a coûté 2800 euros au couple de vacanciers, une somme versée au moment de la réservation et impossible à récupérer. La plateforme de location refuse de rembourser, elle ne s'estime pas responsable. Une attitude contestable selon Raphaël Bartholomé du service juridique du FC Que Choisir.
À partir du moment où Abritel avait connaissance de l'arnaque et ils ont persisté à laisser publier l'annonce, on peut considérer que Abritel a failli à son obligation légale de retirer le contenu illicite et en quelque sorte a provoqué, a laissé faire l'arnaque, sa responsabilité pourrait être engagée.
Et comme Alexandre, une vingtaine de plaignants comptent porter plainte auprès de la répression des fraudes.
Arnaud Rozac pour Europe 1. Enfin, les premiers cols des Pyrénées aujourd'hui. Sur le Tour de France, 2 ascensions de première catégorie au programme et 209 km au total entre Toulouse et Bagnères-de-Bigorre. Julien Alaphilippe espère conserver son maillot jaune. Et nous aussi d'ailleurs.
Ah bah nous aussi. Évidemment. Je vous confirme, Marion Calais. Je sais que vous suivez de près le Tour de France.
Surtout quand ça arrive dans la montagne.
Et oui, surtout quand ça arrive dans la montagne. Et c'est le cas aujourd'hui. Merci beaucoup. On refera un point sur l'actualité à 10h58. Merci Marion.
Europe 1. 9h, 11h, le club de l'été. Eva Rock.
C'est la deuxième heure de ce club de l'été d'Europe 1, toujours en direct et jusqu'à 11h pour partager des idées de balade à travers la France, un peu faire les malins aussi derrière les fourneaux. On peut compter sur ça, sur les expertises pardon, de Lise Pressac et d'Olivier Pousse, sur Stéphane Rothenberg qui est resté avec nous pour cette deuxième heure, et puis sur notre deuxième invité de la journée qui ne va pas tarder à rentrer dans ce studio et qui est le chef Grégory Cohen. Les téléspectateurs de France 2 le connaissent hein, puisqu'il a présenté notamment en 2017 l'émission Chérie, c'est moi le chef, programme diffusé l'après-midi. On va aller du côté de Lens, mon cher Stéphane Rothenberg,
oui.
Où vous êtes né.
Oui.
Lise Pressac, quelle région, enfin quel site en particulier va-t-on découvrir ce matin ?
On va dans le Marais, en bateau, à Saint-Omer, ouais. près dans le Pas-de-Calais.
D'accord, c'est ouais. Parfait. Olivier, vous allez nous offrir une recette de salade en fin d'émission, un vrai faux. Le vrai faux, ça sera quoi ?
Eh bien, peut-être que vous utilisez cette technique de grand-mère. Vous savez, quand on fait cuire des pâtes ou du oui. riz, on a toujours le problème que l'eau, elle boue et
oui,
puis à un moment, elle déborde.
Ça déborde. Chez moi, c'est toujours.
Et est-ce que vous utilisez la cuillère en bois que vous mettez en travers de la casserole
oui,
pour
moi,
empêcher
je fais ça.
Ça
ah, vous faites ça moi, je Mais fais ça marche
et
ou
est-ce
pas
est-ce que ça marche ou pas et pourquoi
ah ben, on va le voir à la fin de l'émission.
Oui, je vais tout vous dire.
Très bien. Il y a Grégory Cohen qui est en train de s'installer dans le studio. Bonjour Grégory. Vous allez aussi nous offrir surtout un reportage dans les coulisses du nouveau restaurant du Chef Anton au deuxième étage de la Tour Eiffel,
oui,
mon cher Olivier.
Je vous emmène dans un lieu incroyable que j'ai oui. eu l'immense privilège de visiter avant tout le monde. J'y ai mangé, j'ai profité de la vue et je vous emmène effectivement au Jules Verne à 125 mètres d'altitude.
9h, 11h, le club de l'été sur Europe 1.
Bonjour Grégory Cohen, merci d'être avec nous ce matin en direct dans ce studio.
Bonjour, un plaisir Eva.
Vous êtes à la tête du restaurant 99 Haussmann, le restaurant gastronomique de l'hôtel Baumann. C'est un 5 étoiles qui est situé au cœur de Paris. Je le disais, les téléspectateurs de France 2 vous connaissent. Hein. Vous avez fait l'émission Chérif, c'est moi le chef. Notre invité Stéphane Rothenberg est d'origine de Lens. On va aller y faire un tour, on va essayer de parler de gastronomie dans cette région. Avant d'évoquer votre parcours et votre cuisine, Grégory Cohen, vous faites partie d'une association qui s'appelle Repas Toqué. En quelques mots, de quoi s'agit-il ?
Repas Toqué, alors c'est une association qui, enfin, c'est un programme en fait qui a été initié par une association qui s'appelle Princesse Margot et moi. En fait, c'est pour changer tout simplement l'alimentation dans les hôpitaux. Je ne sais pas si vous y êtes passé un jour pour un événement heureux, par exemple un accouchement ou alors autre chose. Et en fait, on a la double peine. On est malade ou on n'est pas bien, on est alité. Puis d'un seul coup, on nous donne un plateau repas qui est particulièrement mauvais, mm-hmm. on peut le dire, hein, sans choquer personne.
Et oui, du coup, encore quand on dit mauvais, on reste poli. Hein.
Oui, voilà. Oui, oui.
Et du coup, j'ai commencé un projet pilote avec l'hôpital Saint-Louis. J'ai formé toutes les équipes de cuisine de l'hôpital. Il y a un vrai boulot, mais il y a des vraies envies. Et on a transformé l'alimentation du service oncologie, donc les jeunes adultes qui sont atteints du cancer. Et on va le développer à l'Institut Curie. On a le soutien de Brigitte Macron qui est venue... s'intéresser au sujet et qui nous a dit que finalement c'était pas une mauvaise idée de bien manger dans un hôpital.
Mais alors avec des budgets constants ou il faut mettre de l'argent, injecter de l'argent pour avoir de meilleurs produits et des chefs en cuisine ?
Alors c'est pour l'instant on démarre avec les contraintes qu'ils ont, c'est-à-dire leur matériel, leur mercurial, c'est-à-dire l'endroit où ils vont aller acheter les produits. Je choisis les produits avec eux. Et simplement, je travaille de façon complètement différente. J'essaie de développer un principe de base en cuisine qui est l'appétence. J'essaie de donner envie de manger les plats. Quand on est dans un hôpital, je vais aller vite, on travaille sur la liaison froide. C'est comme si en fait, vous faisiez à manger la veille et puis vous la réchauffiez le lendemain.
D'accord.
Si vous faites un blanc de poulet et que vous le réchauffez le lendemain, généralement, il n'est pas très joyeux, il est un peu sécos. Or, si on fait une belle marinade et qu'on le fait bien gorger de jus, eh ben, le lendemain, il va être encore meilleur, etc., etc. Donc, on reste dans les mêmes prix. Il faut savoir qu'un plat, c'est 1,40 €.
Ouais.
Donc, on reste dans le même prix et on réussit à faire des très bons plats. Après, l'idée, ce sera de changer un petit peu, de mettre un peu de bio et d'avoir une réflexion un peu plus profonde sur l'approvisionnement.
J'ai une idée, Stéphane Rottenberg.
Oui.
Vous devriez faire une épreuve... avec les futurs candidats Top Chef pour qu'ils améliorent aussi le repas des
hôpitaux. Mais c'est une idée, à chaque fois, on essaie de trouver, il faut trouver 45 idées d'épreuves. Hein. Donc c'est vrai que pourquoi pas, effectivement, c'est une bonne idée.
Vous repartez quand avec le tournage de Top Chef?
Au sortir de l'été, fin septembre, je crois.
Fin septembre, ouais. Avec une douzaine de candidats, ou une quinzaine
ouais,
de candidats.
Oui, c'est ça, une quinzaine de candidats. On a fini le casting, là, normalement. Je n'ai pas encore toutes les infos parce que je suis encore sur Pékin, là, mais on est là, c'est la phase casting candidat et là aussi, alors là c'est beaucoup moins que Pékin, il n'y a pas 44 000 personnes parce qu'on prend des pros, etc. Donc la sélection est très très serrée, mais non, c'est toujours passionnant en ce moment-là.
Grégory Cohen, vous n'êtes pas passé par Top Chef?
Non.
Vous auriez pu peut-être, non?
J'aurais pu, c'est une émission que j'adore et qui est très qualitative. J'ai beaucoup d'amis qui sont sortis de Top Chef, mais non, ça s'est pas fait.
Mais vous êtes passé par la Castellé quand même?
Je suis passé par la Castellé, mais du côté jury.
Mais
c'est
différent. Oui, oui. Mais alors, vous avez fait beaucoup de choses dans votre vie. On va l'évoquer, évidemment, tout au long de cette émission. Nous sommes en direct jusqu'à 11h avec vous deux, avec Stéphane Rottenberg et Grégory Cohen. Et on s'en réjouit. Je vais vous proposer de partir de Paris pour rejoindre Lens pendant quelques minutes. A tout de suite sur Europe 1.
Le club de l'été sur Europe 1.
9h, 11h.
Eva Rock.
Nous sommes toujours en direct, il est 10h12 et nous sommes ensemble jusqu'à 11h avec Olivier Pousse et Lise Pressac. Nous allons vous embarquer à Lens et nous sommes très bien accompagnés ce matin puisque le chef Grégory Cohen est avec nous et Stéphane Rottenberg aussi. Merci à tous les deux d'être là. Lise, avant de partir à Lens, quelques infos culture. On va commencer par le musée du Quai Branly qui vient d'acquérir une pièce très très rare.
Oui, un tableau aztèque en mosaïque de plumes datant de la seconde moitié du XVIe siècle. Il représente le Christ bon pasteur et deux scènes de la vie de Saint Jean-Baptiste. De petite taille, il serait un objet de dévotion qui était fait pour être vu agenouillé. Dans les sociétés précolombiennes associées aux dieux et aux mythes fondateurs, les plumes précieuses revêtent un caractère sacré et les premiers évangélisateurs en comprirent d'ailleurs l'importance en les détournant au profit du message chrétien. C'est ce qu'explique le musée du Quai Branly dans un communiqué. Ce sont des œuvres très fragiles, peu ont survécu à l'épreuve du temps. Seules quelques-unes sont visibles dans les collections publiques françaises, notamment au musée des Amériques à Auch. Et avant de rejoindre les collections permanentes du musée du Quai Branly, ce tableau en mosaïque de plumes sera analysé pour être daté plus précisément.
Stéphane Rottenberg, est-ce que vous continuez à ramener de chaque voyage de Pékin Express un objet?
Oui, un objet, alors pas un objet précis.
Oui, bien sûr.
Sinon, ce serait du vol caractérisé. Voilà, pas les sites. On va dans les sites sublimes. Oui, je ramène toujours une merdouille qu'on trouve, ça y est, les touristes, mais c'est comme ça, ça permet de...
Des manettes sur le frigo, non?
On n'est pas loin de ça. C'est pas tellement mieux. Mais ça commence à faire pas mal de choses sur l'étagère.
Mais à 75 pays, vous pourrez ouvrir un musée bientôt.
J'ai mon petit livre rouge de Mao, des matrioshka russes, oui, des trucs comme ça. J'ai un poignard mongol, ça c'est la seule chose un peu rigolo.
Et là, vous avez ramené quoi de l'Amérique latine?
Oh, c'est des bêtes, j'ai honte. Non, j'ai un masque, j'ai des masques de tribu aztèque, des choses comme ça, mais tout en truc qu'on trouve dans les aéroports. Hein,
vraiment, oui, c'est non,
des trucs.
Non, un Mac. J'ai amené un Mac du Guatemala, donc un masque de lion très coloré, voilà, d'une tribu.
Ah oui, ça prend de la place quand même.
Ça, c'est un peu plus, etc.
Le hamac, c'est sympa, ça.
Oui, le hamac, c'est
super.
Sympa.
Et puis, ils sont bien meilleurs qu'en Asie. C'est joué comme balancé.
Lise, vous nous emmenez maintenant à Chanac.
En Lozère, à 45 minutes de Millau, c'est là que se tient le festival des Tours du Monde, avec au programme demain soir la divine soie de Massy. Un festival qui passera par le Pérou, la Côte d'Ivoire, le Maroc et par Cuba avec le groupe Sima Funk.
Ça s'est modernisé, la musique cubaine, hein, dites-moi.
Oui, très modernisé. Sima Funk qui sera suivi samedi soir par Tiken Jaffa Coli.
Oh, adore.
Le festival des Tours du Monde, c'est à Chanac, en Lozère, jusqu'à samedi.
Et alors, si on est à Paris ce week-end, on peut aller aussi, et là vous me faites très plaisir, écouter du jazz, les pieds dans l'herbe.
Rendez-vous au Parc Floral de Paris pour le Paris Jazz Festival. Le principe est simple, des concerts de jazz gratuits tous les week-ends du mois de juillet. Et nouveauté cette année, plusieurs nocturnes exceptionnelles sont organisées, payantes celles-ci, avec demain soir à 20h, Anne Passeo et Yuzuna. Bésame, bésame
mucho. Cette chanteuse qui est d'origine coréenne est absolument incroyable. Je vous encourage vraiment à découvrir Yuzuna, qui joue avec des musiciens français depuis quelques années et qui est absolument génial.
Ce samedi, il y aura aussi un concert gratuit avec à 15h Yann Cléry et à 17h les Brésiliens de Liniker et Os Caramelos.
Pardon, je ricane, mais pas pour la musique.
Il était compliqué, le nom, très compliqué.
Oui, le nom est compliqué.
Autre concert gratuit ce dimanche à 15h avec le duo trompette et violoncelle Erel Besson et Vincent Segal. Et à 17h, la chanteuse américaine Judy Jackson.
Alors que je viens de découvrir, hein, parce qu'elle fait le festival de Nice. Et donc, je ne connaissais pas et je suis allée voir. Mais allez regarder cette jeune femme qui est absolument sublimissime et qui m'y chante, mais c'est un vrai coup de cœur pour Judy Jackson.
Ouais. Et vous saurez où trouver Eva Rock ce week-end, c'est au Paris Jazz Festival jusqu'au 28 juillet dans le Parc Floral de Paris. C'est dans le bois de Vincennes, dans le 12e arrondissement.
Merci beaucoup. Est-ce qu'on a le temps d'aller faire des musées, des concerts quand on est animateur télé et qu'on fait 75 pays?
Non, pas trop, J'essaye de faire quelques concerts. Je m'en veux quand je rate, donc j'essaye de faire. Alors, j'ai fait tout bête. Hein, là, j'ai fait Elton John Muse, les deux derniers. Là,
ah, mais non, pas tout bête. Il revient en 2020,
c'est la dernière tournée. Hein, moi, c'est une des idées de mon enfance. C'est incroyable de voir. J'étais allé à 4-5 ans, il m'avait un peu, je me suis dit, tiens, il commence à fatiguer. Non, 72 ans, extraordinaire. Voilà. Et magique, Elton John. Et puis Muse, ça reste Muse.
C'est extraordinaire.
Je suis d'accord pour Elton John, je l'ai vu aussi, c'est incroyable. Et puis on chante toutes les chansons.
L'énergie est tout fabuleux. J'ai vu le film prodigieux. Et alors, je déteste les concerts dans les stades, mais Muse, c'est l'exception, il confirme la règle, c'est magique.
Entièrement d'accord avec vous. Mais vraiment, Muse dépasse tout le monde. Grégory Cohen, est-ce qu'on a le temps de se cultiver quand on est chef?
De se cultiver, on essaye.
Cultiver ses légumes.
Cultiver ses légumes, de cultiver plein de choses, mais les concerts un peu moins. Je crois que le dernier que je sois allé voir, c'est dans les Septuagénaires aussi, ou peut-être même un peu plus, Charles Aznavour.
Ah oui.
Qui a encore une énergie incroyable aussi et qui tient la salle de façon magique.
Ouais. Est-ce que c'est une source d'inspiration quand on est chef?
On n'a pas de Charles Aznavour, j'ai l'impression.
Ah, ça va arriver.
Il est en train de chercher, Robin.
Il est en train de chercher. Est-ce que c'est une source d'inspiration, la musique, par exemple, quand on crée un plat?
Alors, tout est une source d'inspiration, la musique particulièrement, parce qu'en fait, moi, je pense qu'un plat doit fonctionner avec différentes valeurs, différents tempos. Je suis en train de travailler sur un bouquin qui est hyper galère à écrire, où j'essaie de donner une temporalité aux saveurs. Je vais vous donner un exemple super simple. Le réfort, c'est quelque chose de piquant, mais qui va avoir une temporalité très courte. Il va exploser en bouche et il va s'arrêter tout de suite. Si on part sur du wasabi, qui est quelque chose de piquant aussi, c'est un peu plus long. Etc, etc. Et après, si on s'amuse, à une époque, il y avait la fève tonka, tout le monde était très fan de la fève tonka. Et si je prends une recette de pâtisserie, je vais dire que je vais mettre chocolat 70%, du café et de la fève tonka, et ça va fonctionner comme ça. Je vais avoir le café qui va démarrer tout de suite en bouche, qui va s'arrêter très vite, le chocolat qui va prendre, et la fève tonka qui va suivre.
Ah, c'est marrant,
c'est
parce qu'on dirait une partition.
C'est les caudalies dans le vin, en fait.
Ouais. C'est un peu ça.
Ah, c'est pareil dans le vin?
Ben, c'est la longueur en bouche, qu'on appelle les caudalies, c'est la longueur en bouche, et puis surtout les phases par lesquelles passe le vin, qui va d'abord délivrer des notes fruitées, puis épicées, puis boisées, etc. Et c'est vrai que dans la finale du vin, il y a des séquences comme ça.
On dirait que vous vous faites de la flûte avec vos doigts quand vous parlez de ça, Olivier Pouls. Non,
oui,
c'est vrai.
C'est la longueur, vous voyez.
Oui, c'est la longueur. Et bien, on va poursuivre cette émission en musique, figurez-vous. Ah oui, Charles Aznavour. Bon, j'avais pensé à autre chose, Robin, qui réalise cette émission. On va changer d'univers avec Gavin James et Philippine. Ensemble, ils chantent Always sur Europe 1.
9h, 11h.
Le club de l'été sur Europe 1.
Eva Rock. What am I supposed to do without you? Is it too late to pick the pieces up? Too soon to let them go? Est-ce que tu gardes en toi mon visage?
Et dans une boîte toute notre histoire, la clé n'est plus qu'un mirage. Reviens vers moi, vivons un rêve d'enfant. Reviens comme avant. T'es dans ma tête. Je me répète, nos espoirs et nos doutes. I'd rather choke on my bad decisions than just carry them to my grave. You're in my head, always, always, always.
Gavin James et Philippines sur Europe 1, soit un Irlandais et une Française pour un titre à la mélodie entraînante. Dans un instant, départ pour Lens, enfin à côté de Lens.
Le club de l'été sur Europe 1,
9h-11h,
Eva Rock.
Il est 10h23 et nous sommes toujours en direct sur Europe 1 pour ce club de l'été. Vous êtes les invités de ce club, vous êtes les bienvenus tous les matins de 9h à 11h. On attend d'ailleurs vos coups de cœur, vos réactions, mais aussi vos questions à Stéphane Rothenberg qui est avec nous pour nous présenter la 12e saison de Pékin Express. Et avec le chef Grégory Cohen, c'est sur Twitter que ça se passe avec le hashtag Europe 1. Le chef Grégory Cohen nous a donc rejoint. Est-ce que vous connaissez la ville de Lens et ses environs, Grégory ?
Lens, pas vraiment.
Lens, pas vraiment. Stéphane,
oui.
Vous connaissez bien,
oui.
Parce que vous êtes né là-bas,
oui.
Mais vous n'y êtes pas resté longtemps.
Non, 2 ans et demi. Mais en revanche, j'ai encore mon oncle, ma tante, mes cousins, donc voilà.
Et puis vous y passiez vos vacances, oui, les week-ends,
voilà,
en famille,
c'est pour
etc.
Ça, c'est pour ça, non, je connais quand même.
C'est quand même une ville de votre cœur, en tout cas, qui
oui,
fait
oui.
partie de votre
ah, oui,
identité.
Très clairement,
on
très
est d'accord.
Ah, oui, oui.
Alors Lise, est-ce que vous nous emmenez à Lens ou à
non.
quelques kilomètres de Lens?
Oui, on va à quelques kilomètres quand même, toujours dans le Pas-de-Calais, pour découvrir le Marais à bord d'un bateau traditionnel en chaîne. C'est ce que propose Rémi Collin. Bonjour Rémi.
Bonjour.
Bonjour Rémi.
Vous êtes faiseur de bateaux, c'est une tradition séculaire de Saint-Omer que vous faites perdurer avec votre père Vincent. Alors déjà, première question, qu'est-ce qu'une escute et qu'est-ce qu'un bacove? Est-ce que je le prononce bien?
C'est bien ça, c'est bien ça. Alors il faut imaginer que le marais est accessible à l'origine qu'en bateau, hein, pour l'accès des habitations et l'accès dans les champs, puisque c'est un marais maraîcher, on cultive principalement le chou-fleur. Et donc on a deux types de bateaux. L'escute, c'est plutôt le bateau de la vie quotidienne. Les enfants partaient à l'école en bateau, on allait chercher de l'eau à la pompe. Alors que le bacove, c'est un bateau de 9 mètres qui peut transporter 3,5 tonnes de marchandises. Et là, c'était plutôt le bateau de charge.
Et donc aujourd'hui, c'est à bord de ces embarcations qu'on peut visiter le marais.
Voilà, effectivement. Donc on fait des visites dans le marais hein, pour faire découvrir finalement le métier de nos grands-parents déjà en bateau. Et puis bah, ensuite, on va dans l'atelier pour découvrir notre métier d'aujourd'hui qui est faiseur de bateaux. Donc la construction de ces deux bateaux.
Ah oui, c'est ça. C'est vraiment quand vous remplacez... On parlait de ça avec Stéphane Rothenberg tout à l'heure. Quand vous remplissez vos papiers administratifs, Rémi, vous mettez faiseur de bateaux.
Oui, c'est un terme qui est employé sur Saint-Omer. Oui, donc on met faiseur de bateaux. C'est bien ça.
D'accord. Et c'est des bateaux en bois, j'imagine.
C'est des bateaux en chêne, effectivement.
Ah, chêne, oui.
Et alors, donc, dans votre atelier, qu'est-ce qu'on découvre? Vous nous montrez la fabrication, toutes les étapes. Comment ça se passe?
Voilà, donc dans l'atelier, on voit la construction de ces bateaux. On est sur une construction au bord des premiers. Alors, pour être très simple, en fait, on va commencer la construction par créer toute la coque du bateau et ensuite, on va faire tout le squelette du bateau. Donc, c'est une construction plutôt ancienne où on va transformer des planches qui sont plutôt de grandes dimensions. On travaille des planches de chêne de 11 mètres jusqu'à 55 cm de large.
Donc vous avez perdu la minute.
Le bateau est tombé à l'eau.
Vous êtes tombé. Ah, non, vous êtes là.
Non, je suis là.
Ah oui, c'est votre téléphone qui est tombé.
Non, non.
Ah bon, d'accord.
Bon, on vous
écoute.
Avez perdu. On
vous
avait
perdu.
Ah.
Ouais. C'est pas grave, on vous écoute encore.
Donc, je disais simplement que dans l'atelier, on explique la fabrication des bateaux, où on commence par la coque, ensuite on fait le squelette du bateau, avec des traditions également comme le clouage au clou de forgeron et le calfatage, c'est-à-dire l'étanchéité du bateau se fait encore en le frappant au lin. Donc le lin, cette plante.
Mais alors, Rémi, pour bien comprendre, tous ces bateaux que vous construisez aujourd'hui, c'est uniquement pour faire visiter le marais ou ils sont utilisés pour transporter notamment de la marchandise encore aujourd'hui?
Alors non, aujourd'hui, les maraîchers ne l'utilisent plus. On va construire des bateaux essentiellement, c'est vrai, pour le tourisme, sur Saint-Omer, mais sur d'autres secteurs également, par exemple sur les Antillonnages d'Amiens, sur le marais de Saint-Quentin. Les bateaux sont utilisés aussi par des parcs naturels. Donc pour le transport, par exemple, d'animaux ou le transport de personnes, par exemple, des personnes pour le faire comptage d'oiseaux.
D'accord, ouais. D'accord. Vous auriez pu faire un autre métier que faiseur de bateaux, Rémi? Avec
c'est
votre
possible,
papa,
oui.
C'est vrai, ouais, quand même.
Oui.
La tradition familiale n'emporte pas sur tout le reste.
La petite différence, c'est qu'à l'origine, on n'est pas charpentier dans la famille. Hein. Les grands-parents étaient maraîchers. Moi, j'ai eu la chance que le dernier charpentier, qui lui arrête en 95, hein, va accepter de me transmettre son métier il y a maintenant 12 ans. Et donc, c'est moi qui démarre la construction des bateaux et mon père me rejoint 2 ans après. Donc, c'est moi qui transmets le métier à
D'accord.
mon père.
D'accord. Ah, c'est marrant, ça.
Mais c'est vrai qu'en fait, j'aurais peut-être pu faire un autre métier, mais je pense que le point de départ de tout ça, c'est toujours le marais. En fait, le marais est le point central.
Combien de temps il faut pour faire un bateau,
Olivier?
Alors, ça dépend de la taille. Le plus rapide, on met à peu près une semaine à deux. Le Bakov, qui est un bateau où on va transformer 2 mètres cubes de chêne, on met 1 mois et demi à deux.
D'accord. On pourrait en avoir un club de l'été, vous voyez?
Oui, il faudrait que Rémi s'y mette dès maintenant, je crois.
Oui, c'est ça. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Rémi. Et on vous retrouve sur lesfaiseursdebateaux.fr si on veut venir faire un tour dans les marais de Saint-Omer. Merci beaucoup.
Merci,
Rémi.
Merci, merci d'avoir été en direct avec nous ce matin sur Europe 1. Donc, je rappelle que vous êtes faiseur de bateaux. Toutes les infos, elles sont à retrouver sur le site d'Europe 1. Lise, vous nous postez
c'est
tout
joli,
ça.
C'est joli, faiseur de
bateaux. Faiseur de bateaux, c'est beau. Hein. Ouais. Lise, vous postez tout ça sur votre compte Twitter avec
oui,
le
chef.
Hashtag Europe 1. Voilà, avec Olivier Pouls, nous allons parler gastronomie. J'aime bien quand même les chefs.
Oui,
comme
je
ça.
Sais.
Ah, oui. On va parler gastronomie dans un instant. Vous avez eu la chance de découvrir en exclusivité et sans nous, je le rappelle, le nouveau restaurant de Frédéric Anton situé au 2e étage de la Tour Eiffel et vous allez nous raconter tout ça sur Europe 1.
Europe 1. On prend le temps, on se détend avec le club de l'été sur Europe 1.
C'est la suite du Europe 1 Club de l'été en direct avec mes acolytes Lise Pressac et Olivier Pouls. Le chef Grégory Cohen est avec nous, Stéphane Rothenberg aussi. Vous connaissez la Tour Eiffel tous les deux, j'imagine, pas besoin de vous présenter ce bâtiment. Hein, vous voyez à peu près,
c'est
une petite tour au milieu
oui.
de Paris, voilà. Vous connaissez...
C'est le monument à entrée payante le plus visité au monde.
Vous êtes sûr? Parce que des fois, les chiffres, ils changent d'une année à l'autre. On va vérifier, mais je crois que vous avez raison.
Jusqu'à 25 000 visiteurs par jour.
Ouais. Alors, il y a un restaurant qui est situé au 2e étage de la Tour Eiffel. C'était Alain Ducasse qui en avait la gestion. Et c'est désormais Frédéric Anton, le chef Anton, qui est en lieu et place. Et Olivier, vous avez eu la chance de découvrir ce nouveau lieu en exclusivité pour Europe 1.
Mais oui, direction 135 mètres plus haut que le sol, avec un ascenseur dédié qu'on prend uniquement pour se rendre dans ce restaurant. Le restaurant s'appelle le Jules Verne. Il est restaurant gastronomique depuis 1982. Et donc, après pratiquement une petite année de travaux, il va rouvrir ses portes là en fin de semaine. C'est un lieu qui a totalement changé. Il faut savoir que la nouvelle équipe a tout détruit. Ils sont partis d'une plateforme vide et ils ont repensé totalement un restaurant extrêmement spectaculaire, très différent du précédent, beaucoup plus lumineux. On est vraiment dans l'univers de la haute gastronomie et j'ai même envie de dire de l'ultra-luxe parce que toutes les pièces ont été pensées, imaginées pour le lieu. Alors, petite visite guidée avec Aline Asmar-Daman, elle est architecte, c'est elle qui a conduit la rénovation de cette tour Eiffel, de ce restaurant.
On a voulu, avec Frédéric Anton, un nouvel aménagement qui accueille les visiteurs dès le départ par une entrée qui porte une empreinte très artistique, chargée de l'impression que peut donner la Tour Eiffel sur le lieu. Les 3 salles sont très claires aujourd'hui. Elles rendent hommage au ciel gris de Paris. C'est la continuité du tissu urbain parisien, mais c'est aussi une émotion des arts décoratifs français, très 1900.
Alors, j'ai eu la chance de voir les photos que vous avez prises. On a l'impression d'être quasiment dans le vide parce que les grandes baies vitrées, là, devant les tables, c'est absolument magnifique.
Absolument.
Hein.
La vue est évidemment dingue. On mange au plus proche du vide. Hein. Il y a juste une vitre qui nous sépare de l'extérieur avec cette vue. Et puis, cette machinerie aussi, parce qu'on est au cœur de la tour. Donc, on voit ces poutres, on voit les poulies qui montent les ascenseurs. Enfin, c'est vraiment extraordinaire. Mais surtout, ce chantier est extrêmement compliqué parce qu'il y a énormément de contraintes sur la Tour Eiffel, et notamment la contrainte du poids.
En architecture, à l'école, déjà, on apprend que les contraintes font les meilleurs projets. Donc, plus on a des contraintes, mieux on se focalise sur l'essentiel. Chaque chose qui rentre dans le projet doit être pesée. Donc, on a été dans cette légèreté. Et donc, il y a toujours cette dualité entre le brut, le précieux, le lourd, le léger. Tout a l'air cossu et très construit. Mais en fait, on a beaucoup travaillé pour alléger les meubles, pour alléger les matières, afin de répondre à cette complexité qui est celle du poids.
Alors voilà pour le décor, Olivier, on a bien compris.
Et
dans l'assiette, qu'est-ce que vous avez pu déguster ?
Alors donc, c'est le chef Frédéric Anton qui est aux commandes. Frédéric Anton, c'est le chef 3 étoiles du Pré-Catelan. Il n'a pas amené sa cuisine du Pré-Catelan à la Tour Eiffel, il a repensé autre chose. Du Anton, dit-il, c'est-à-dire qu'il n'a pas voulu se laisser trop inspirer par le lieu, mais faire sa cuisine. Alors c'est un très grand chef, c'est un très grand technicien, Frédéric Anton. Il est meilleur ouvrier de France, c'est un élève de Robuchon. Et donc on retrouve cet esprit Anton dans des plats extrêmement précis, avec de la saveur juste, avec beaucoup d'équilibre, mais aussi des contraintes liées là aussi à la Tour Eiffel. C'est-à-dire que, notamment, on ne peut pas utiliser la flamme dans la Tour Eiffel, donc les cuissons sont électriques. Il faut gérer 90 couverts quand même à envoyer à chaque service. Et autant vous dire que c'est plein, c'est déjà plein pour les 3 mois à venir, puisque les réservations vont s'ouvrir toutes les 3 mois. Mais c'est une cuisine qui se veut gastronomique. Il ne cache pas ses ambitions. Hein, 1 étoile pour commencer, 2 et peut-être plus si affinité. Mais pour l'instant, il n'y a pas de prise de risque majeure. On y mange extrêmement bien. Et surtout, il y a aussi une contrainte liée à la population qui va fréquenter ce restaurant parce que, évidemment, il y a énormément de touristes, des touristes du monde entier qui viennent. Et donc, il faut faire une cuisine, on va dire, relativement consensuelle, identifiable, française. Mais ça, c'est la grande cuisine de Frédéric Anton.
Stéphane Rottenberg, en animant Top Chef, vous avez exercé votre palais à d'autres saveurs. Vous vous êtes intéressé à la gastronomie ?
Oui, c'est ça. En fait, moi, je cuisine pas du tout. Je sais pas cuisiner, mais j'ai augmenté ma culture culinaire considérablement parce que c'est vrai que rencontrant tous ces chefs de différents univers, leur culture, leur manière de faire, ils sont très différents, hein, vraiment. C'est passionnant parce que c'est d'une richesse absolue. En plus, c'est vrai qu'on a les jeunes candidats, donc voilà, qui apportent leurs choses, et puis les grands chefs qui sont invités. Et c'est vraiment chaque année, je découvre des choses. Chaque année, j'apprends des choses. Je découvre des produits. Voilà, c'est absolument passionnant. Et ce qui m'épate, c'est qu'on arrive à transmettre ça aux téléspectateurs alors qu'ils ne goûtent pas.
Exactement. Mais parce que c'est extrêmement bien filmé. Et puis j'imagine que vous êtes très fiers quand vous voyez les candidats ouvrir leur restaurant, obtenir des étoiles.
Oui. Alors, et encore une fois, ils auraient vraiment réussi sans nous. Hein. Mais c'est vrai que...
C'est un coup d'accélérateur. Oui, tous le disent, quand même.
Gagnard dit, vous gagnez 5 ans en faisant Top Chef parce que vous confrontez votre cuisine à quantité de palais différents, puisque plein de chefs invités viennent vous donner des conseils. Et puis, vous gagnez du temps. Il y a une exposition médiatique pendant quelques mois, donc ça peut vous aider, etc. Et puis c'est vrai, voilà, du coup, maintenant, on a 7 ou 8 anciens candidats qui sont étoilés, 2 double étoilés, donc ça, c'est génial. Hein.
Le petit reproche, si je peux me permettre, dans cette cuisine, que l'émission, je la trouve fantastique, évidemment, mais c'est une cuisine, ça impose une cuisine de la rapidité. Or, la rapidité, c'est pas toujours ce qui se fait de mieux en cuisine. On les voit, évidemment, toujours travailler avec des contraintes de temps, mais si on avait travaillé que la cuisine dans des contraintes de temps comme ça, il n'existerait pas les fonds, les plats mijotés, etc.
Je suis d'accord. Après, c'est vrai qu'on est plus dans des règles de concours. C'est-à-dire qu'effectivement, des concours de cuisine, il y a quand même un temps, quoi qu'il arrive. Oui. Et donc, on se cale finalement dans les grands principes de concours. C'est vrai que c'est compliqué. Alors, on peut s'adapter, mais c'est vrai que c'est compliqué de faire les plats mijotés 3 jours. Voilà.
Ouais. Olivier, j'ai pas parlé de la douloureuse, c'est-à-dire
l'addition au Verne. Alors, ce n'est pas si inaccessible que ça. C'est pas bon marché, bien sûr. Le midi, vous avez le menu qui est à 105 euros. Donc, pour un lieu pareil, pour une expérience comme celle-là qui, franchement, va vous marquer
la vie. Oui, c'est une expérience que vous vivez, on est bien d'accord.
Franchement, c'est pas délirant. Le soir, c'est un peu plus cher. Il y a 2 menus imposés. Donc, vous choisissez 5 plats ou 7 plats. Il n'y a pas de carte. C'est 190 ou 230 euros.
Bon, c'est un vrai budget quand même.
C'est un budget quand même. Ouais. Mais franchement, c'est un moment inoubliable.
Grégory Cohen, est-ce que c'est quoi le Graal quand on est dans votre métier? Est-ce que c'est 3 étoiles au Michelin? Est-ce que c'est un restaurant dans un lieu aussi extraordinaire que la Tour Eiffel? Pour vous, ça serait quoi?
Alors, c'est pas la reconnaissance des étoiles ou des guides. Il y a différentes familles en plus, c'est assez segmenté, ça a un petit peu évolué. Au départ, le guide, c'était vraiment quelque chose de très démocratique. C'était vraiment, on se balade et puis il faut qu'on aille dans des endroits et voilà. Là maintenant, c'est devenu un petit peu du pouvoir, un petit peu des enjeux. Et puis on se retrouve avec ceux qui sont d'un côté sur le Michelin, d'autres qui sont sur l'autre qui sont les 50 best, l'autre qui sont dans les listes, etc. On s'y perd un peu. Non, moi, le Graal, c'est tous les jours, quand je suis au pass et que je vois l'assiette vide. Et ça, c'est magnifique. C'est la qualité et c'est le gage de succès. Ça veut dire que mon client, il a aimé et parfois même il sauce. Donc voilà, c'est génial.
Voilà. Et voilà ça. Alors ça, j'adore quand vous dites ça. On a le droit de saucer dans les restaurants. Évidemment. Avec le pain. Les chefs sont hyper contents. Et moi, le jour où j'ai su ça, je pense que ça a changé ma vie. La façon d'aborder.
Le prochain stade, c'est lécher l'assiette. Hein.
Non, je ne lècherai pas l'assiette. Non, quand même, je sais me tenir. Merci beaucoup. On va continuer à évoquer tout ça, à faire connaissance avec vous, Grégory Cohen. À tout de suite sur Europe 1.
9h-11h, le club de l'été sur Europe 1, Eva Roque.
Et oui, le club de l'été se poursuit en direct sur Europe 1 et jusqu'à 11h avec les deux experts Olivier Pouls et Lise Pressac et nos deux invités, l'animateur Stéphane Rothenberg et le chef Grégory Cohen. Lise Pressac, elle a toujours un bon plan dans sa besace, enfin même 3 bons plans.
Oui.
Et alors ce matin, je vous lis l'intitulé de la chronique, hein. 3 paysages qui dépaysent sans aller loin.
Bah, c'est pas mal, non?
C'est pas mal.
Mais sans aller loin, ça dépend d'où on part.
Alors, écoutez, c'est une bonne réflexion. Lise Pressac me dit départ pour le Sahara en Gironde.
Oui.
Je ne sais pas ce que vous aviez mis dans la salade niçoise hier, qu'on a mangé ensemble, Olivier Pouls, mais c'est un peu compliqué.
Bah oui, un tour du monde tout en restant en France. On commence par la dune du Pila, située à l'entrée du bassin d'Arcachon.
C'est vrai que c'est beau.
Bah oui, sur la commune de La Teste-de-Buch, entre l'océan et les forêts, c'est la plus haute dune d'Europe, constituée d'environ 60 millions de mètres cubes de sable.
Vous allez compter?
Mais oui, je suis allée compter tous les petits grains. Elle mesure 100 à 115 mètres de haut, c'est selon les années, car elle possède cette particularité. Elle est la seule dune toujours en mouvement de la côte aquitaine. Malgré de nombreuses tentatives pour la stabiliser, la dune du Pila continue de rouler sur elle-même. Elle se déplace ainsi de 1 à 5 mètres par an vers la forêt, sous l'influence des vents dominants et des marées. Alors, aux dernières nouvelles, elle mesurait 2,9 km de long, 110 mètres de haut et 616 mètres de large. C'est des opérations de mesure qui sont réalisées par des géomètres grâce à des drones. Un petit air de désert du Sahara au cœur du bassin d'Arcachon. En tout cas, la visite de la dune du Pila est gratuite. Le parking, en revanche, est payant 4 € pour 2 heures, 6 € pour 4 heures.
Alors voilà, là on est parti au Sahara. On est bien d'accord.
Oui.
On part maintenant dans le Colorado.
Voilà, tout en restant dans le Roussillon. On en avait parlé dans la saison 1 du Club de l'été. Direction le Sentier des Ocres dans le Vaucluse, en plein cœur du Luberon. Un sentier aménagé dans les anciennes carrières à ciel ouvert avec leurs falaises couleur sang et or. On se croirait en plein ouest américain. Et vous pouvez découvrir ce paysage multicolore absolument sublime à Roussillon. Des visites de 30 ou 60 minutes sont organisées. Vous suivez ainsi le parcours de l'ocre, de son extraction à sa transformation en produit manufacturé. Avec la visite de l'ancienne usine, ses bassins, ses ateliers, ses fours, le billet donne accès au Sentier des Ocres et couplé aussi avec la visite du Conservatoire des Ocres qui se situe un peu plus loin dans le village de Roussillon. La visite coûte 3 € pour les adultes, c'est gratuit pour les moins de 10 ans.
Alors, on est d'accord, Sahara, vous me suivez tous, hein, vous êtes là, hein, Sahara, Colorado, et pour terminer, écoutez bien.
Stéphane, je ne sais pas pourquoi vous embêtez à partir de Pékin Express, alors regardez en France.
Parce qu'on peut même partir aux Seychelles.
Mais oui. Le soleil s'endort. À seulement 1h45 d'avion de Paris, contre 13-14h pour les vraies Seychelles, j'ai vérifié. Direction les îles de la Vézie. Alors je triche un peu parce qu'après l'avion jusqu'à Figari,
il faudra quand même un bateau. Hein.
Voilà, ouais. Un peu de route et du bateau. Depuis Bonifacio, la traversée allée dure une demi-heure. Et à l'arrivée, un paradis protégé et conservé à l'état sauvage, un archipel de 23 îles, constitué de plusieurs petites plages et criques bordées d'une eau cristalline bleue turquoise.
Oh, ça donne envie. Hein.
Des départs fréquents toutes les demi-heures et des retours toutes les heures l'après-midi pour vous permettre de profiter de ces Seychelles corses.
Vous choisissez quelle destination, Stéphane Rotenda?
J'adore la Corse et les Corses, mais effectivement, la Vézie, oui.
Grégory Cohen.
Le Roussillon, on y mange très très bien. Magnifiques abricots aussi là-bas.
D'accord. Mais alors que vous soyez aux Seychelles ou en Corse, Lise, vous nous proposez une appli qui recense les défibrillateurs.
Il va falloir vous expliquer pourquoi on écoute Seeing Alive.
Oui, je vous l'expliquerai après. J'ai cherché et il y a une dizaine de défibrillateurs aux alentours de l'hôtel Baumann où vous travaillez, Grégory Cohen, boulevard Haussmann à Paris.
Donc si vous avez
vous êtes plutôt à l'aise. Je les ai repérés grâce à l'application Staying Alive qui géolocalise les défibrillateurs qui se trouvent près de vous et ce partout dans le monde. L'application vous aide à utiliser le matériel et à réaliser les bons gestes dans l'ordre avant l'arrivée des secours. Vous voulez me poser la question?
Non, je vais poser la question à Stéphane Antenne. Mais moi, je connais Grégory Cohen, j'ai compris. Vous savez, là, pourquoi c'est une
live? Parce qu'on est formé sur Pékin.
Ah, mais vous savez, oui. Oh là là, je suis nulle.
Dites-le aux auditeurs.
Non, parce que c'est vrai que lorsqu'on fait. S'il y a quelqu'un qui est en arrêt cardiaque devant soi,
on doit chanter.
Voilà, c'est compliqué de trouver le bon rythme. Tout le monde nous dit n'hésitez pas à appuyer très fort, c'est pas grave de casser les côtes, vous me sauvez un cœur, casser les côtes. Donc, il faut y aller franchement. Effectivement, et pour trouver le bon rythme, c'est effectivement cette chanson-là que tout le monde connaît. Et donc, voilà, tac. On est sur ce rythme-là, ce rythme disco.
Et en vrai, je pense que si ça vous arrive, qu'il y a quelqu'un qui fait un malaise cardiaque devant vous, je ne pense pas que vous pensiez à Staying Alive.
Alors, je l'ai vécu. Alors, très indirectement.
Si on pense à Lara Fabian, c'est perdu.
Grégory, un des cadres de Pékin Express, avait été formé quelques semaines avant. Et effectivement, il est témoin d'un accident de la route. Il voit effectivement quelqu'un qui est en arrêt cardiaque. Et il s'est lancé. Vraiment, par voyant que les autres étaient complètement interdits, attendaient, etc. Il y est allé, il l'a fait, il a pensé à ça, il a sauvé la personne. Donc non, je peux vous dire de
son
première
fort,
main...
Son fort, c'est Grégory, quand même.
Voilà, non, mais je peux
vous dire que,
mine de rien, ou en tout cas, lui l'a fait, donc je pense qu'effectivement, ce petit indice, cette manière de faire, ces deux trucs de « n'ayez pas peur », appuyez fort et pensez à cette chanson. Il l'a fait vraiment, je vous assure. Donc, je pense que si ça nous arrive, on le fera.
Et pensez-y, Staying Alive, c'est très important. On peut tous se servir d'un défibrillateur et ça peut sauver des vies, vraiment.
Exactement. C'est une application
gratuite.
Même si on ne
connaît pas les paroles.
Oui. Et même si on ne connaît pas les paroles. Grégory Cohen, est-ce que vous voyagez beaucoup ?
Beaucoup.
C'est vrai ?
Oui.
Le dernier voyage que vous avez fait qui vous a marqué ?
J'ai fait Israël il n'y a pas très longtemps. J'ai fait la Thaïlande, j'ai fait la Chine, j'ai fait le Japon. Le Japon, c'était complètement dingue. Donc, j'adore voyager.
C'est important pour vous pour renouveler votre cuisine ou c'est deux choses différentes, le voyage et la cuisine qu'on réalise ensuite en rentrant?
Non, c'est essentiel. En fait, je pense qu'un chef, c'est une bibliothèque. Il prend des saveurs, il prend des goûts, il imprime ça dans sa mémoire et après, il va transformer tout ça.
D'accord. Et comme on comprend que c'est une source d'inspiration pour vous, est-ce que la culture, on parlait de musique tout à l'heure, ça peut être aussi une source d'inspiration quand on cuisine?
Alors oui, complètement. Mais la musique... Je vais même vous raconter une petite anecdote. J'ai commencé, j'avais 13 ans. Mes parents avaient un restaurant qui était rue de Verneuil, juste en face de chez Gainsbourg. Et j'ai commencé d'abord en pâtisserie et après en cuisine. Et en fait, j'avais un chef pâtissier qui ne faisait que chanter. On était dans les sous-sols du restaurant. Et donc, j'ai appris à pâtisser en chantant.
Pâtisser en chantant. Olivier Pouls.
Oui, il y a deux écoles aujourd'hui chez les chefs. Il y a ceux qui disent que la cuisine s'est toujours nourrie des voyages et qu'effectivement, aller voir ce qui se passe en Chine, au Japon, en Amérique du Sud, ça ramène beaucoup de réflexions et puis que ça se transpose dans la cuisine. Et puis aujourd'hui, il y a le locavorisme. C'est-à-dire des chefs qui aujourd'hui ont du mal à partir à plus de 30 km autour de chez eux. Alors, vous faites partie de la première catégorie.
En fait, je fais partie de la première catégorie. Je trouve la seconde catégorie aujourd'hui, en 2019, complètement absurde. Le locavore, à l'époque, moi j'ai de la famille qui était paysanne dans le Périgord. Et quand ils devaient, à l'époque, ramener quelque chose du Périgord, ou même par exemple, pendant la guerre 14-18, quand on devait aller jusqu'à Verdun, c'était 20 heures pour y aller. On disait qu'on mangeait local quand on ramenait des produits de Verdun à Paris. Aujourd'hui, à 20 heures de Paris, il y a le monde.
Oui.
Aujourd'hui, les produits sont...
Vous allez vous faire gronder avec le bilan carbone, là.
Oui, alors... Ouais, je vais me faire gronder avec le bilan carbone. Il y a toujours quelque chose pour qu'on se fasse gronder, en fait, en vrai. On a aujourd'hui travaillé sur plein de choses. On a la congélation, qui maintenant n'est plus un gros mot. C'est fait de façon, quand c'est bien fait, directement sur les bateaux, et que ça arrive directement chez nous, et que c'est décongelé, c'est parfait. Il y a des chefs 3 étoiles qui utilisent à longueur d'année des langoustines, et pourtant, c'est pas non plus... la saison de la langoustine toute l'année.
Vous êtes d'accord là, Olivier Pouls, ou...
Non, mais c'est vrai, oui. Non, mais... Ouais. Ou de la truffe. Hein.
De la truffe. Quand on parle avec des chefs qui me disent « moi je suis en locavore », je dis « très bien, qu'est-ce que tu fais comme dessert en hiver ?» Il me dit des trucs avec de la mangue, des fruits exotiques, quoi. Et c'est vachement local, mon gars.
Non, mais est-ce que ça a un sens de manger des cerises au mois de mars? Est-ce que ça a un sens de faire venir des tomates de l'autre bout du monde en plein hiver?
Non, ça n'a pas de sens parce qu'on les fabrique ici. Ce qui a un sens, c'est de prendre des produits qu'on n'a pas ici et qu'on n'a pas dans notre saisonnalité et qu'on puisse ramener. Si je ramène du poivre du Japon, c'est extraordinaire parce que je ne l'aurais pas ici.
Alors, je vais vous proposer un dernier voyage musical. Rien à voir, hein, avec une sœur et un frère. Angèle et Roméo Elvis sont sur Europe 1 avec Tout oublié.
9h, 11h.
Le club de l'été sur Europe 1.
Eva Rock.
N'existe pas sans son contraire, qui lui semble facile à trouver. Le bonheur n'existe que pour plaire, je le veux. Enfin, je commence à douter d'en avoir vraiment rêvé. Est-ce une envie, parfois je me sens obligé. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué. Tout, il faudrait tout oublier. On pourrait croire, il faudrait tout oublier. On joue, mais là j'ai trop joué. Ce bonheur, si je le veux, je l'aurai.
N'existe pas sans son contraire, une jeunesse pleine de sentiments. L'ennui est inconditionnel, je peux ressentir le malaise des gens qui dansent. Essaye d'oublier que tu es seul, vieux souvenir comme la DSL. Et si tout le monde t'a délaissé, ça s'est passé après les sols.
Tout, il faudrait tout oublier. Pour y croire, il faudrait tout oublier. On joue, mais là j'ai trop joué. Ce bonheur, si je le veux, je l'aurai.
Ferme les yeux, oublie que tu es toujours seule. Oublie qu'elle t'a blessé, oublie qu'il t'a trompé. Oublie qu'elle t'a perdu tout ce que t'avais. C'est simple, sois juste heureux, si tu le voulais, tu le serais. Tout, il faudrait tout oublier. Tout oublier. On joue, mais là j'ai trop joué. Ce bonheur, si je le veux, je l'aurai.
Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être.
Si ça me soit juste heureux, si tu le voulais, tu le serais.
Tout oublié, chante Angèle et Roméo Elvis sur Europe 1. Et nous, on n'oublie pas évidemment que l'émission se termine avec quelques recettes.
Europe 1,
le club de l'été.
Et oui, Stéphane Rothenberg, on va bientôt refermer les portes de ce club de l'été pour ce jeudi uniquement, parce qu'on sera de retour demain. Olivier Pouls, en quelques secondes, est-ce que vous pouvez nous faire votre vrai faux du jour?
Bah écoutez, on a un chef et un spécialiste de la cuisine, le présentateur de Top Chef.
On va voir s'ils sont d'accord avec vous.
Est-ce que quand vous faites bouillir de l'eau, que vous cuisez vos pâtes ou votre riz, est-ce que vous mettez, pour éviter que ça déborde, une cuillère en bois en travers de la casserole?
Ah non.
Moi, je laisse déborder l'eau systématiquement. Je sais pas, est-ce que j'en mets trop?
Est-ce que ça marche, cette astuce?
Mais j'ai jamais fait ça, donc je voudrais bien essayer.
Moi, je le fais, mais je suis pas sûr que ce soit ça.
Eh bien, ça marche, oui. Ça marche. en fait, qu'est-ce qui se passe dans les pâtes et dans le riz? Il y a de l'amidon. L'amidon se dissout dans l'eau et ensuite il remonte et il va former une pellicule au-dessus de votre casserole d'eau. Une eau à ébullition, elle crée des bulles. Oui. Il y a de l'air qui a besoin de s'échapper. Et en fait, ce qui se passe, c'est que cette pellicule, elle va empêcher l'air de remonter et ces bulles d'éclater. Il y a un moment, il y a une pression qui va se faire et quand la pression est trop forte, paf, ça déborde et on s'en remet partout et vous n'avez plus qu'à récurer votre plan de travail. Alors que quand vous mettez votre petite cuillère en bois plus longue, évidemment, que sinon elle tombe dedans.
On a corrigé nous-mêmes.
Non, mais j'explique pour Eva.
J'explique.
L'autre jour, elle pensait que les œufs blancs, c'était des œufs normaux qu'on avait nettoyés. Enfin bon, bref.
Oh, c'est moche que vous faites, Olivier.
Et donc, qu'est-ce qui va se passer?
C'est
qu'au moment où ça va monter, en fait, la cuillère en bois, elle va aider à casser cette petite pellicule et elle va donc permettre à l'air de s'évacuer, de sortir et donc de faire retomber la pression et vous allez avoir donc ainsi une ébullition qui ne débordera pas.
Je vous préviens, j'essaie ce week-end. On est d'accord?
C'est moi qui viens nettoyer sinon.
C'est vous qui venez nettoyer. Exactement. Grégory Cohen, on profite de votre présence. On avait envie d'avoir quelques petites recettes et c'est vrai qu'on vous a demandé si vous étiez inspiré un peu par le nord de la France. Et alors vous m'avez parlé du ch'ti burger et des endives caramélisées du nord que votre grand-mère faisait.
Ouais.
Alors le ch'ti burger, c'est quoi le ch'ti burger?
Le ch'ti burger, en fait, c'est un petit burger, donc avec un petit jeu de mots. Le Ch'ti Burger.
On l'a compris. Vous allez vous retrouver au Burger Quiz, vous allez voir.
C'est incroyable. Et donc, on fait une petite boulette de viande et on fait une sauce à base de maroilles, un petit peu de miel pour casser la violence du maroilles et de la bière Ch'ti. On laisse réduire pour que ça devienne un petit peu sirupeux. Alors, très simple, on prend la même cuillère qu'on avait utilisée pour faire cuire le riz. On la met dedans, on fait un petit trait avec son doigt dessus. Et si ça ne coule pas trop, ça veut dire que la sauce est sirupeuse. Elle a la bonne texture, elle a la bonne consistance. Et là, on va faire cuire notre petite boulette de viande à l'intérieur en les faisant confire avec cette sauce. Et on les remet après, soit sur un morceau de pain, soit sur un petit morceau de pain d'épices. Et puis, on a un ch'ti burger.
C'est sympa pour l'apéro, ça. On est d'accord ou c'est un plat pour vous?
Non, c'est sympa pour l'apéro.
C'est
oui.
pour l'apéro. Ouais. Et alors, les endives caramélisées de grand-mère, c'est quoi ça?
Les endives caramélisées de Maman Fanny. Hein. Maman Fanny, c'était ma grand-mère chérie. Elle est malheureusement plus avec nous. Mais elle était tellement aimante et généreuse qu'elle nous réunissait tous les mardis soirs et vendredis soirs. Et elle faisait des endives, donc des chicons. Et elle ne savait pas du tout cuisiner, ma grand-mère. Et donc, elle caramélisait les endives. Au début, c'était une erreur. Elle avait mis du beurre, elle mettait les endives dedans. Et puis elle ne savait pas quoi faire. Un jour, elle voit un jus d'orange à côté, elle met le jus d'orange dedans. Et elle nous a fait des sublimes endives caramélisées qui sont un peu ma Madeleine de Proust. Et que
au
j'adore,
goût de jus d'orange.
Avec exactement déglacé au jus d'orange. En fait, si on le fait avec des termes de chef, on va dire qu'on fait fondre du beurre qui devient un peu noisette. On va mettre nos endives dedans. Du coup, le choc des températures va faire que le beurre va redescendre en température. On va laisser confire nos endives et puis après, on va déglacer avec du jus d'orange.
Alors moi, je l'ai fait avec le fenouil aussi. Le fenouil cuit avec le jus d'orange, ça fonctionne très très bien.
C'est pas la même région évidemment.
Non, c'est pas la même région.
Nord contre sud.
Mais oui, surtout que nous, dans le sud, on les mange crus, les endives et les fenouilles généralement.
Une bonne salade d'endives crues, c'est très bon.
Excellent, c'est excellent.
Vous avez faim. Cette amertume que j'adore.
Ah ouais, vous avez faim, Stéphane Rottenberg, là, quand on parle de ça. Vous avez mangé des très très bonnes choses dans votre voyage pour cette 12e saison de Pékin Express entre le Guatemala et la Colombie.
Ce ne sont pas des pays. Je me ferai étrangler sans doute. C'est pas des pays extraordinaires. Sur le plan culinaire. Le gallo pinto, qui est la spécialité, c'est donc des haricots rouges, du riz, voilà, c'est des cuisines très, très basiques. Alors ça va, hein, c'est roboratif, on est content, on mange du poulet à toutes les sauces.
Roboratif, c'est le terme. Hein.
Ouais, voilà, c'est ça. C'est extrêmement répétitif. C'est troublant, c'est qu'encore une fois, c'est là où on voit qu'il y a quelques pays qui sont des trésors culinaires, comme la France, comme le Japon, comme la Chine, etc., où c'est sans arrêt différent, et des pays où c'est toujours la même chose, où il y a très peu de variantes. Et c'est vrai que, voilà, c'est plus dur. Guatemala, j'adore le pays, hein. Ouais. Mais bon, si c'est pour une expérience culinaire magique...
C'est pas là-bas qu'il faut aller.
Non. Peut-être pas, mais il faut quand même y aller, mais pas pour manger.
Est-ce que je rappelle ce que j'ai mangé grâce à Stéphane Rottenberg au Cambodge sur la route de Pékin Express, l'Espressac? Ouais. Vous en souvenez ou pas?
Non, je m'en rappelle plus.
J'ai mangé de l'araignée.
Ah, c'est vrai?
Oui, c'est très
voilà,
bon.
Grande araignée... Pas
de l'araignée de mer. Ouais. Hein.
Ah non, pas de l'araignée de mer, une vraie araignée. Voilà,
non, l'Amérique du Sud, Pérou magique.
Pérou magique. Ah,
pour manger, magique.
Oh, vous avez de la chance de voyager autant, Stéphane Rottenberg.
Les produits sont prodigieux. Ah. Voilà, c'est sans fin, c'est tout le temps différent.
Alors, je vous remercie tous les deux. D'abord, merci Grégory Cohen de nous avoir accompagnés. Votre restaurant est situé à l'hôtel Beaumane, dans le 8e arrondissement de Paris. Vous participez à l'opération Repas Toqué pour améliorer la qualité des repas dans les hôpitaux.
Bravo.
Et vraiment,
merci.
bravo.
Merci,
vous serez le 29 novembre prochain aussi le parrain du Salon des Saveurs à Paris. Stéphane Rottenberg, merci infiniment pour cette deuxième venue dans la saison 2 du Club de l'été. On espère vous revoir l'année prochaine pour la 13e saison de Pékin Express. Ça commence ce soir sur M6. Sincèrement, regardez ce premier épisode. Il est formidable. J'ai beaucoup ri. J'ai un peu pleuré. Je me suis beaucoup énervée à la fin.
Elle est passée par toutes les émotions.
C'est ça qui était à côté de moi. Elle était très agacée du spoiler que j'étais en train de faire.
Mais oui, elle m'a tout dit.
Non, je vous ai pas tout dit. Heureusement, je vous ai pas tout dit. Demain, nous changeons d'univers et de région. Nous recevrons la journaliste, auteure et conférencière Florence Servan-Schreiber, qui se définit comme professeure du bonheur. Et je trouve que ça va très bien pour ce club de l'été. Avec elle, on va tenter de découvrir Paris autrement. Merci à vous quatre d'être venus. Je garde Olivier Pousse et Lise Pressac pour demain. Et je vous laisse en compagnie d'Anne Romanoff. En vous souhaitant une très très bonne journée à l'écoute d'Europe 1. À demain.
À demain.